With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, un podcast de qualité présenté par LAM UA.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans le studio 404 du mois de novembre. C'est le mois le pire de l'année, on le connaît tous, c'est le coup de barre, c'est le coup de fatigue. Mais ce coup de barre, ce coup de fatigue n'existe pas dans la joyeuse équipe de 404 menée par Ghislain, Mélissa, Daz, Sylvain, Fibre Tigre, Sam et moi-même. Nous avons évidemment beaucoup de choses à vous dire. Tellement de choses à vous dire que nos chroniqueurs ont évidemment largement débordé sur leur quota de signes et de longueur de chroniques. Voilà, on leur a dit de faire plus court, donc ils ont fait bien sûr plus long. Donc on les a punis, ils seront obligés de lire leur chronique en 1,25, vitesse 1,25, ce qui va trigger les gens qui écoutent nos podcasts en 1,5. Bonsoir chers chroniqueurs, comment allez-vous?
Ça va super.
Ça va Fibre?
Comme un gilet jaune presque pas raciste.
Allez. Mais alors du coup, ça répond pas à mes questions, ça va bien ou pas?
Le plat,
bah,
les pieds.
J'ai froid, on est en novembre, je suis en train de bloquer une ville, voilà.
Tu es en train de bloquer une ville.
Laisse tomber.
Okay. C'est une blague de provincial, voilà.
Est-ce qu'on a battu notre record de trigger de l'émission ou pas là? On dirait que les buts à la deuxième minute de la rencontre.
Non, mais si, on peut parler d'un truc qui n'est pas jaune, le Black Friday.
Franchement, j'ai flippé. J'ai super flippé pendant un court instant.
Oh là 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 là.
C'est trop intense.
Jamais très loin du drift, jamais très loin de la sortie de route.
Ouais, franchement,
le. Mais comme tous les bons films, hein. Tu vois, t'as l'impression que la voiture, elle va tomber dans le vide.
La prise de courbe, mon gars, et.
Ouh. Ah là là. Fibre.
J'ai acheté une Xbox One X.
Oh là là, tu vas vraiment trigger tout le monde, toi.
Moi, on me l'a prêté, donné.
Bah écoute, chacun son truc.
Pourquoi tu as acheté une Xbox One X en ce Black Friday de gilet jaune, Fibre?
Parce que je veux vivre l'expérience Red Dead Redemption 2 comme une expérience unique au monde. Je sais qu'il n'y en aura qu'un dans ma vie, et donc je veux avoir le meilleur matériel, la meilleure condition.
Tellement de déceptions à venir.
Ouais, peut-être. Mais en tout cas,
après, c'est vrai qu'en jeu vidéo, tu connais pas grand-chose, donc tu vas peut-être aimer.
L'année de la bienveillance, Daz, comment ça va?
Ah oui, l'année de la bienveillance,
ça marchait bien jusqu'à ce que j'ai 40 ans. Fini de niaiser.
Joyeux anniversaire.
Merci.
L'andropause déjà.
Merci à tous. L'andropause, mais chivré mon gars. Moi, l'andropause, ça ne me pose aucun problème. Si c'est juste être sûr de pas faire de gosse, mais continuer à gléver. Tu vois ce que je veux dire?
À gléver mou.
D'ailleurs, juste avant l'émission, on n'arrêtait pas de dire, elle est énorme. Et en fait, on parlait de nos chroniques.
Bien sûr. Et la
mienne. Ça va les deux concours de bites là.
Ça va. Donc moi, Black Friday, j'ai acheté une console chinoise. Voilà. C'était juste pour vous dire ça, et je peux désormais vous le dire, les Chinois ne respectent absolument rien en termes de propriété intellectuelle. C'est assez fabuleux.
Mais ça, c'est pas du drift.
Ben non, parce que c'est vrai, pour le coup.
Ah ben là, c'est les Chinois qui driftent. Mélissa, comment vas-tu? Comment va ton chibre?
Je vais laisser un silence long et malaisant. Je vais très bien, je déménage bientôt de bureau, ce qui change beaucoup dans ma vie.
Oui, c'est vrai, on a vu des petites photos.
Ouais, ça va être trop bien. Du coup, je suis très contente, même si on est en novembre et que c'est une vitrine, donc il va faire froid.
Ah oui.
Mais on va acheter plein de petits chauffages.
C'est pas très écolo, je vais le dire à Surfrider.
Ouais.
Je peux te dire que les gens de Surfrider et leur communauté nous écoutent de près maintenant. Hein.
Ils vont t'envoyer des pulls.
Merci.
Ah là là. Sylvain, comment vas-tu?
Très bien, j'ai passé la semaine à Paris. J'ai trouvé ça très gris.
Non mais le mec il vient de Londres et
j'ai trouvé
la gueule
ça
de Paris.
Très froid et j'ai trouvé ça très violent.
C'est
je
vrai.
Trouve que Paris est une ville violente.
Ouais,
désormais.
Mais nous on roule à droite.
Plus que Londres. C'est violent,
ah oui,
aussi,
hein.
Complètement.
Ah non,
c'est super violent.
Ah non, Londres, c'est
en
plus
quoi,
cool.
C'est violent, Paris, excusez-moi. Je...
Parce qu'il y a une densité, une densité qui est très forte. Il y a beaucoup de gens au mètre carré.
Il y a aussi une attitude. Une attitude un peu toujours en dedans.
Mais en fait, j'ai peur de rentrer dans le cliché de l'expat qui revient en France.
On dirait quand même.
Mais je suis carrément dedans et je trouve que les gens font la gueule.
Oh non, mais, ça, c'est sûr. Mais t'as pas le droit.
Non, ça c'est vrai.
Mais non, mais à Londres, les gens
parce
sont pas
sont
pas
de la bière.
Bah, si. Il pleut tout le temps.
Non, pas du tout.
Jure, c'est vrai.
Ça c'est le mythe. Bah écoute,
franchement, il fait beau.
C'est vrai, il fait beau à Londres.
Ouais, quand il fait beau, là, il fait hyper beau.
Là, en ce moment, il fait beau. Là, on est bien.
Ouais. Ok. Très bien. Mais donc là-bas, les gens sont radieux, souriants. Alors qu'ils sont obligés de prendre de la vitamine D.
Oui, mais j'habite dans un quartier de riches. C'est pour ça.
Voilà. Ok, d'accord. Ouais, non, ça c'est vrai. La vitamine D qui est fournie aux enfants dans toutes les écoles anglaises parce qu'en fait il y a pas assez d'ensoleillement pour que ils aient les apports en vitamine D naturellement. C'est vrai.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai. Tu l'as lu sur Facebook ou c'est vrai?
Non, c'est vrai. Je l'ai lu.
Sur Gilets jaunes, Lorraine.
Oui, d'ailleurs.
Je sais pas où je l'ai lu ça d'ailleurs.
Vous savez que la Constitution n'est plus valide.
Ah oui, c'est
on n'est plus en démocratie. C'est révolution, non dictature.
Bon, Macron démissionne, mais avant que tu démissionnes, évidemment, on va commencer cette émission qui évidemment émission qui évidemment est très en retard. On a attaqué la soirée largement. Ça carbure au café, ça carbure au Kouign-Amann, ça carbure au thé. Et on va commencer tout de suite avec la première chronique d'un homme londonien. Un homme qui va apporter beaucoup de soleil et pas de blasitude dans vos cœurs.
Oui.
Un homme qui va révolutionner votre manière de vivre, c'est Sylvain Palais.
Sujet numéro 1.
Amateurs de communautaire, préparez la co-crémaillère. Après le co-working, voici le co-living.
Lorsque j'écrirai mes mémoires, il y aura deux choses clandestines que je pourrais raconter pour me la jouer un petit peu Jack Kerouac de l'Internet. La première, c'est quand on enregistrait en toute illégalité dans les studios de radio. Le dimanche à minuit. Anecdote qui a donné son nom d'ailleurs au studio 404, le studio introuvable. C'est complètement faux, mais on a tous besoin d'un petit mythe fondateur. Ma seconde expérience clandestine se déroule lors de mon arrivée à Londres, dans la brume électrique de Shoreditch en hiver. La connexion internet est très mauvaise dans l'appartement que je partage avec une dizaine d'autres ressortissants européens. Il me faut absolument un meilleur endroit pour travailler. C'est ce jour-là que je décide de mener une vie faite de menus rapines et de clandestinité.
Vivre à la marge.
Vivre à la marge.
Off the grid.
Une émission de qualité.
Ah, vous voyez, c'est pas dur de faire une intro de podcast de fiction, hein. Tout le monde peut le faire, ça va, merde.
Ça tire à balles réelles.
Alors, navré, si vous avez envie de l'écouter, il existe certainement sur la Terre 2, hein, ce podcast. Mais là, vous êtes chez Studio 404, les loulous. Donc, accrochez-vous à vos baskets. À la recherche d'un endroit pour travailler, je découvre WeWork, un espace de coworking qui ressemble à tous les autres espaces de coworking. On peut y louer un bureau ou plus, ou seulement payer pour l'accès aux parties communes, à savoir des cuisines, à chaque étage, avec du café et de la bière à volonté. Voilà, c'est Londres. La déco est indus, tuyau apparent, mais joli mobilier scandinave, ça rappelle des trucs à Mélissa. Je rentre donc en douce le matin, reste dans une partie commune et me faufile derrière les gens qui ont un badge lorsque j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ce badge, justement, il sert à accéder au réseau WeWork, dans le monde entier. Et ça, en fait, c'est pas rien. Parce que WeWork possède 300 espaces répartis dans 25 pays. Ça fait 200 000 membres en tout, c'est le nom des clients. Répartis sur 1 million de mètres carrés de bureaux, ce qui est assez énorme. Aujourd'hui, WeWork, c'est une start-up valorisée à 20 milliards de dollars.
20 milliards.
20 milliards. Les seules autres start-up américaines qui dépassent cette valorisation, c'est Airbnb et Uber. Donc, pour comparaison, le premier groupe immobilier de bureaux coté à la bourse de New York, c'est Boston Properties, et ils sont, eux, à 18 milliards. Car c'est bien d'immobilier dont il s'agit, et croyez-le ou non, nous avons là le prochain domaine qui va être disrupté par la technologie. Pardon, désolé, je suis accro au lancement pré-générique, je m'enflamme. Pour comprendre à quoi ressemble l'immobilier de demain, donc, puisque c'est ça la question, il faut revenir un petit peu dans le passé. Adam Neumann naît en Israël, fils d'un couple de docteurs. Il sera ballotté de quartier en quartier au gré des affectations de sa mère fraîchement divorcée, l'obligeant constamment à se faire de nouveaux amis. Il passera une partie de sa jeunesse dans un kibboutz. C'est une communauté hébraïque structurée autour d'une ferme et basée sur des règles socialistes telles que le partage et la redistribution des richesses. C'est important à noter pour la suite. Après avoir servi dans l'armée israélienne, notre cher Adam se lance dans l'entrepreneuriat à New York et finit par rencontrer Miguel McKilvey, son partenaire de crime, lui-même élevé dans une communauté matriarcale de femmes activistes à Eugene, dans l'Oregon.
C'est une vraie histoire, ça aussi, ou c'est un petit coup de la gueule des fictions au podcast?
Non, c'est une vraie histoire. Tiens. 8 ans plus tard, ces deux-là sont à la tête d'une des plus grosses boîtes d'immobilier du monde, donc, et racontent à qui veut l'entendre que leur core business, c'est pas l'immobilier, c'est la culture et la communauté. Et c'est vrai que lors de mes journées clandestines à WeWork, j'étais souvent confronté à des moments surprenants. À la base, cet endroit, c'est un espace de coworking +++, parce que la machine à café est jamais cassée, il y a toujours du papier dans l'imprimante, et une salle de conférence est toujours libre pour faire des réunions. Une suite de logiciels internes permet de gérer les réservations, connaître ses voisins, avoir un agenda des événements, une carte des commerces locaux, etc., etc. Et puis, il y a la communauté. Des événements quasi tous les soirs, de l'apéro pour accueillir les nouveaux, aux ateliers pour fabriquer des cupcakes, en passant par des sessions de mentoring gratuites par des membres du WeWork, et puis des summer camps l'été, des festivals avec des artistes internationaux, des cours de fitness, des cours de yoga, j'en passe, et des meilleurs. Bref. Adam nous parle d'une communauté de like-minded people, des people qui partagent le même état d'esprit. Tu m'étonnes, ils sont tous la trentaine, travaillent dans une start-up et vivent dans une capitale. Normal qu'ils soient like-minded. Et ce que vous savez pas, c'est que Adam Neumann, il a un plan secret, un kekaku machiavélique pour vous faire rentrer dans la grande toile de WeWork et vous exploiter sans que vous ne vous en rendiez compte. Car à l'image de ces espaces de travail, il est également en train de façonner la ville de demain. Je rigole, celui-là n'était pas prévu. Adam aime bien se moquer des promoteurs immobiliers en disant des choses comme « Ils vendent de l'aluminium, nous, on fabrique des iPhones. »
Oh mon Dieu.
Et il parle de ses bureaux. Hein. Parce que l'empire immobilier de WeWork est entièrement géré numériquement. Depuis son bureau, qui ressemble un petit peu à une salle d'un méchant dans James Bond, il a un gigantesque écran accroché sur un mur. Et d'ailleurs, tous ses acolytes ont ce même écran sur lequel ils peuvent consulter en temps réel la consommation de café, l'usure du filtre à air, le nombre de fois où est activé le standing desk de telle portion d'un WeWork, la hauteur moyenne d'un standing desk de tous les WeWork du monde, ou d'un bureau en particulier, une carte de chaleur des déplacements mappée sur une modélisation en 3D de toutes les pièces de tous les WeWork du monde. Ils savent combien d'heures vous travaillez, ils savent le nombre de coups de fil que vous passez, à quelle heure vous prenez votre pause, quand vous allez aux toilettes, et leur département R&D est rempli de jolies choses comme des caméras de reconnaissance faciale et d'émotions pour savoir si vous avez la pêche ou pas. Ça, c'est pas encore mis en place, mais un jour peut-être. Et pour faire quoi ? Pour le vendre à des annonceurs comme Zuckerberg, à des managers hein, pour les aider à gérer leurs équipes ? Même pas. Non.
Ah bon ?
Il veut réussir à modéliser les relations entre les gens et entre les espaces. Il veut comprendre pourquoi ces deux-là, ils sont devenus amis, comment ces trois-là ont fini par déjeuner ensemble tous les midis, et pourquoi ces deux membres-là, ils ont arrêté de s'adresser la parole. Il veut créer des modélisations fiables de communauté. Car la nouvelle ambition de WeWork, c'est le programme We Live. Dans le premier, vous travaillez. Dans le second, c'est simple, vous vivez. Des appartements meublés, de 1 à 4 lits, tout confort, avec une petite cuisine, mais de grandes salles communes. Un peu comme WeWork, mais à la place des bureaux, des lits.
Miam.
Vos voisins sont comme vous, des start-upers trentenaires. Les salles communes sont équipées de baby-foot, comme dans les start-up, de tables de ping-pong, d'un cinéma, d'une salle de gym et d'un jacuzzi communautaire. Toute la vie, comme dans Love Story, toute la vie commune est gérée via une app. Vous payez vos loyers, vous contactez vos voisins de palier, vous réservez le jacuzzi ou vous participez à des événements grâce à l'app We Live. Adam Neumann veut créer, et ce sont ses mots, des kibbutz capitalistes. Des endroits où l'on vit, travaille, s'amuse, où l'on consomme, où l'on dort, où on se dépense,
où l'on meurt,
où l'on prend soin de soi, bref, où tout est là, prévu par WeLive, pour le bénéfice de la communauté, avec la communauté, des endroits comme les kibbutz, où l'on n'a pas à craindre de laisser la porte de son appartement ouverte. Quand même assez joli. Neumann fait partie de cette nouvelle génération de hippies libéraux qui ressuscitent les unités d'habitation de Le Corbusier ou les phalanstères de Fourier à la sauce techno. Mais justement, ces deux architectes, Corbusier, Fourier, ils sont français. Pourquoi n'auraient-ils pas fait des émules chez les technocrates de nos vertes contrées ? Eh bien si, le plus américain des entrepreneurs français. Non,
Loïc Barbier.
Pas Loïc Lemaire.
Ah,
non,
Xavier.
Pas Loïc Barbier. Xavier Niel. Calque le modèle de WeWork sans vergogne. À Prestation F, qui est un WeWork géant, Niel est en train de construire Flatmates, une start-up de co-living à Ivry-sur-Seine, ma gueule. 3 tours, 100 appartements de 6 chambres chacun, réservés aux membres de l'incubateur de Station F. Comme pour WeLive, le loyer comprend un spa, une salle de fitness, le ménage, des événements le soir, un café-épicerie, etc., etc. Et ils ne sont pas les seuls à essaimer dans le monde et en France. Babel Community à Marseille, BNP Real Estate à Saint-Ouen, la Casa à Maison-Alfort, en face du poulailler, j'imagine.
La meilleure ville.
La technologie vole enfin au secours du vivre ensemble. Moi, je pense qu'il était temps.
Ouais.
Certaines unités d'habitation du Corbusier sont encore utilisées aujourd'hui par des familles plutôt aisées, bon, qui n'étaient pas l'objectif à l'origine, certainement avec moins de sens de communauté qu'à leur construction, mais ça fonctionne encore. Les kibbutz, autre exemple de vie en communauté, fonctionnent encore également, même s'ils sont désormais gérés par des fonds privés et ont les deux pieds dans le capitalisme pour la plupart. Ils fabriquent du plastique pour les militaires et ils ont des plantations géantes. Les communautés regroupent des jeunes, des vieux, des familles avec enfants, etc. Donc c'est assez divers. Donc, des co-living, avec au centre une communauté de jeunes technophiles, créatifs et entrepreneurs. Je dis pourquoi pas, finalement ça ressemblerait à un camp avec de l'eau courante. Personnellement, je suis prêt à essayer, surtout si ça me donne accès à un réseau à travers le monde. Mais je vois les limites d'ici, gentrification, entre-soi. Imaginez Station F, mais 24 heures sur 24.
Quel enfer.
Je suis partagé. Allez, faites un effort d'imagination, suivez-moi. Je suis à mon WeWork, en train de siroter une bière gratuite. Une notification sur mon appli WeOS m'informe que le ménage vient d'être fait dans ma chambre. C'est le moment que j'attendais pour rentrer chez moi. Je n'aime pas trop croiser la WeLive Cleaning Force. Je prends congé de l'afterwork « Comment cuisiner sans gluten » auquel je participais. Je sors du WeWork, synchro avec le WeTram, je saute à bord et quelques minutes plus tard, je suis devant mon WeLive. Je rentre avec mon WeID et l'écran me salue par mon prénom et m'annonce qu'il y a une conférence dans la salle commune ce soir et un tournoi de Fortnite dans la salle de jeu. Je file dans ma chambre, le lit est fait, le ménage aussi et la température est exactement comme je l'aime. De l'eau est en train de bouillir et s'est mise en marche automatiquement quand j'ai passé mon badge. WeOS a remarqué que je me suis fait une tisane trois soirs de suite, l'algorithme anticipe. On frappe à la porte, c'est Klaus, mon voisin autrichien qui me propose une petite bière de chez lui. Il teste en ce moment son business model et fait ça avec des membres du co-living le soir après le boulot. Je lui dis que je me sens pas top, il n'insiste pas. Quelques minutes plus tard, Brad et ses collègues américains me signalent par la fonction interphone de l'appli WeOS, donc qui gueule une notification dans mon téléphone, qu'ils vont au jacuzzi. Je passe mon tour. J'entrouvre la porte, je vois que la conférence n'est pas terminée. Ah, j'aimerais me faire à manger mais je n'ai pas envie de croiser tout le co-living. On est obligé de se parler, ça m'emmerde un peu. Je commande à manger via WeOS. Des cuisines en sous-sol permettent de se faire monter des sandwichs chauds, des salades et des burgers. À 23h30, WeOS me rappelle que j'ai un rendez-vous avec mon manager au WeWork de Bastille, à 9h demain matin, et que je ferais bien d'aller me coucher parce que manifestement, je couve un truc. La sonde de température du matelas a remarqué que j'avais un peu de fièvre. Et là, je me dis, merde. À quel moment j'ai accepté que des tech companies gèrent tous les pans de ma vie jusqu'à la température de mon matelas? À quel moment j'ai accepté de vivre avec des gens qui travaillent tout le temps et qui n'ont manifestement jamais besoin d'être seuls? Et après quoi? Que se passera-t-il quand j'aurai une famille? Tiens, une notification WeOS, comme s'il lisait dans mes pensées. Il m'annonce que WeWork lance WeGrow, une école alternative pour élever les enfants avec, je cite, un mindset d'entrepreneur.
Ça, c'est une histoire vraie aussi.
Ça, c'est véridique. We work, we live, we care, we fit, we grow. Et pourquoi pas créer un état dans l'état finalement?
Une principauté
gérée par une start-up. J'ai finalement rejoint Brad et ses collègues dans le Wii Jacuzzi, quand même. Parce que bon, déjà que le loyer est pas cher, en plus on a un spa, ça vaut bien quelques sacrifices.
Ah là là, bravo. On peut applaudir, c'est une très belle chronique. Alors, je regardais la tête de tes petits camarades, Sylvain, qui au début était là, ah, pas mal, et puis à la fin c'était oui mais non. Voilà, c'était un peu la conclusion, c'était we work, we live, oui mais non.
Oui non.
Incroyable. Alors, tout ce que tu as raconté, donc les services, la plupart des services qui existent, sauf à la fin on t'en a inventé quelques-uns, mais
ouais.
WeWork évidemment existe. La valorisation complètement folle de WeWork existe.
Ouais.
We live est un vrai projet.
WeLive existe à New York en ce moment.
WeLive existe à New York. WeGrow, donc cette école maternelle avec un mindset d'entrepreneur pour les enfants.
Pour
existe.
Élever les enfants avec un mindset d'entrepreneur. Pareil, ça existe à New York aussi, ouais.
Alors, un des buzzwords de cette année sur 404, c'était le solutionnisme. Est-ce que là, on est les deux pieds et les deux mains et les fesses et les coronesses dedans?
Bah là, c'est clairement. La critique du solutionnisme, c'est de dire que les technologies s'affranchissent des pouvoirs publics, des gouvernements, des choses comme ça. Là, carrément, ils le remplacent, quoi. Il remplace tout, il remplace le logement.
Pas le gouvernement, il remplace en fait les bailleurs privés. Qui,
oui, c'est vrai.
De toute façon, ils sont
pas. Oui, mais les bailleurs privés et les services attachés et l'éducation.
Alors,
et peut-être la sécurité.
Ouais, non, l'éducation, on passe à mon sens, une marche
avec
supplémentaire.
Avec le WeRise, t'as la salle de gym aussi. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent être. Où l'État a quand même une influence et son mot à dire, tu vois.
Oui, mais comme tu dis, c'est des kibbutz. Alors, on déteste 2.0, mais c'est littéralement des kibbutz 2.0. C'est des communautés de gens qui du coup, là, participent pas entre eux. Tu fais pas la bouffe pour les autres, en fait. Tu vis avec des gens avec un système, un package, ouais, on va dire, un package complet.
Mais tout est fait pour insuffler un sens de la communauté. Il y a des événements qui vont organiser. Moi, j'imagine que dans un WeLive, il y a des community managers, comme dans les WeWork.
D'accord.
Des gens qui organisent des événements, qui t'invitent à participer. Si trois soirs de suite, tu restes tout seul dans ta chambre, ils vont te dire, ça va pas, tu veux pas venir, tu veux qu'on discute, tu vois.
Mais c'est,
en mode,
c'est quoi,
en mode fait, écoute c'est... active, tu vois, enfin, en permanence.
C'est un appart hôtel, en fait, ton truc, là. C'est, tu vis dans un semi-hôtel, quoi.
C'est ça. C'est, bah, c'est, au croisement de l'appart étudiant, de la colocation, de l'appart hôtel, du boutique hôtel, ouais.
Mais ce qu'ils disent aussi, c'est que globalement, justement, la notion 1 de propriété, la notion 2 de vivre ou que seul ou qu'en couple, en famille, sont en train d'exploser un peu. Et t'as le retour, effectivement, à la colocation, mais aussi aux communautés. Et donc là, en fait, ils offrent le côté, donc, comme tu dis, communauté, comment dire, traquée, numérique, dans tous les sens, hyper optimisé, avec une IA qui va choper toutes les stats et les habitudes des gens pour, je sais pas, les mettre ensemble. Ou,
mais ça, c'est ça. Vrai, ça, le mec, oui, dans son bureau qui a toute la métrique, ouais, il a de pas... la hauteur du bureau jusqu'au...
Il a toutes les métadonnées, en fait.
Alors, en fait, on, juste pour que les auditeurs comprennent bien, tout ce que tu as dit est vrai, sauf à la fin, les quelques services que tu as créés en plus.
J'ai un peu imaginé comment fonctionnerait WeOS, l'interphone, voilà, les trucs comme ça, mais sinon, tout le reste est vrai.
Mais, hein, tout le reste est vrai. Et WeGrow, à la fin, bien sûr, oui, bien sûr, est vrai.
Il n'y a pas de WeTram, encore. Ah. Ils ont pas fait les transports en commun.
Oui, SNCF.
Mais bon, oui, il y a CityMapper, donc...
Alors, du coup, qui avait envie de réagir sur cette vie? Alors, attendez, Daz a un petit peu réagi. Fibre, Mélissa, qu'est-ce que vous pensez de cette We Life? C'est plus la Yes Life, c'est la We Life qu'on vous propose.
C'est l'horreur.
C'est l'horreur pour toi?
Mais surtout, t'as parlé du prix, enfin de la valorisation en milliards.
20 milliards, ouais, 20 milliards.
En fait, mais le prix de ces endroits pour les gens...
C'est cher ou pas?
C'est, non, en fait, ce sera moins cher que la moyenne du loyer parisien.
Si,
tu vois.
Si.
C'est plus cher.
Bah, en tout cas, pour moi qui cherche des bureaux.
Ah, mais pour WeWork, quoi.
On a testé et genre, pour 8 personnes, c'était 5 800 €. C'est genre énorme.
Oui, combien?
Pour une table. Ouais. Pas pour un bureau fermé fait, en fait, avec une salle et tout machin.
La moyenne, c'est 400 euros par,
non,
par
c'est
personne.
Fait,
je crois.
C'est fait pour des auto-entrepreneurs, en fait. C'est fait pour des entreprises individuelles.
Un auto-entrepreneur qui gagne bien, ça.
Mais attends, mais c'est cher, du coup.
C'est hyper cher.
Il y a de tout. WeWork, il est pricé assez cher parce que.
La bière est gratuite.
Tout est gratuit à l'intérieur, tout fonctionne, t'as les photobooths, etc. T'as un truc.
Si t'as les photobooths.
Pas des fun booths, pardon. Ah, pardon. Des endroits où tu peux passer des coups de fil en silence et tout.
Ah, des cabines téléphoniques.
On appelle des cabines téléphoniques.
Oui, c'est ça. Excusez-moi, je viens de Londres.
Enfin, c'est des cabines.
Sans rouge.
C'est littéralement des cabines téléphoniques sans téléphone.
Ouais, c'est ça.
C'est des cabines.
Donc, bring your own phone.
Tu peux avoir accès juste aux parties communes. Ça doit être, je sais pas, 200 balles par mois, un truc comme ça, dans tous les WeWorks du monde. Après, t'as les bureaux comme toi. Et puis, il y a des étages où t'as des entreprises entières. Donc, genre, IBM, s'ils ont une task force pendant, je sais pas, 3 mois sur un sujet en particulier, et qu'ils n'ont pas de place dans leur building, ils vont foutre les 15 mecs,
oui, c'est le prix de la flexibilité,
sur tout un étage de WeWork.
Ah, autrefois on louait le tank pour faire de 404.
Oui, c'est vrai.
Et voilà, c'est ça.
Mais en fait, ce qui est fou aussi, c'est que quand Mélissa parlait de la valorisation de WeWork, on se rend compte que les trois startups les plus valorisées, c'est de l'ubérisation à chaque fois. Parce que Airbnb, oui, Uber et WeWork, c'est de l'ubérisation, oui, de bureaux, de logements, oui,
y a toujours
privés et de transport.
Cette slide que les gourous mettent dans leur présentation de transformation numérique, qui est le plus grand réseau d'hôtels du monde ne possède aucune maison,
ah oui,
la plus grande compagnie de taxi ne possède aucune voiture. Ouais. Bah là, avec WeWork, c'est pareil, ils ne possèdent pas les bâtiments, ils les louent aussi. Donc,
ah, d'accord,
ils sont propriétaires de rien.
Ah.
Seulement leur headquarters à eux, c'est tout.
Fibre, toi qui aimes, ouais, vivre seul dans 110 mètres carrés quelque part dans une base secrète en province, que penses-tu de cette vie en communauté?
Alors, je
qui
pense...
représente aussi pas mal le camp, hein, on en
ouais, je pense que c'est très fragile parce que déjà vivre en couple. Si, non mais pourquoi l'amour c'est pratique? Parce qu'en
pourquoi
fait,
l'amour c'est
non,
pratique.
Parce que vivre en couple c'est affreux. En fait, tu partages, tu vis avec une autre personne, c'est quand même affreux le concept. Mais heureusement on s'aime, tu vois. Mais et en fait,
comme d'habitude, Fibretti qui ne veut pas réagir sur la chronique,
non,
il veut
non,
juste
non,
raconter
non,
sa live.
Non, c'est pas ça. Non, je parle pas de ma vie en particulier.
Bisou à Madame Tigre. Hein.
Non, mais les communistes, ils faisaient ça, les kibboutziens et les communistes. Oui. Ils avaient enfin, quand le mur de Berlin est tombé, les gens étaient contents d'acheter des Adidas, mais ils se sont dit, on a perdu un petit truc. On a perdu le fait de vivre en communauté. Attends, je vais y venir.
Non, mais tu vas y revenir parce que t'es parti loin, en fait. Alors, reviens.
Oui,
reviens
vers nous. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut des idéologies fortes ou des processus chimiques forts pour supporter les autres. Et là, WeWork, il base son business sur le fait de dire, OK, on va tous vous mettre ensemble, ça va être trop cool, tout ça. Et le seul truc qui nous fait supporter l'autre,
c'est que
c'est
on est dans un délire Maxime Barbier de ouais on est des winners, on vit ensemble, on va créer une start-up, tout ça. C'est juste cette espèce de fantasme, je vis quelque chose d'extraordinaire, mais qui va te tuer au bout d'un moment. Et forcément, ça va te lasser. Et comme l'a dit Sylvain, finalement, c'est sur cette surface immobilière hyper valorisée, il n'y a que des barbus blancs start-upers. Donc c'est quand même super fragile.
Oui, et ça, c'est à l'inverse d'une communauté, en fait. Parce que si tu n'as aucune forme de mixité d'âge, de genre, de race, de background, d'études, de ce que tu veux, t'es quand même...
Et pourtant, ils disent qu'ils disruptent. C'est ça qui est ouf.
Alors, comme ça,
bah, ils disruptent la communauté en disant on va disrupter la richesse d'une communauté.
En revenant à un truc qui était inventé.
En fait, ils disruptent l'immobilier, quoi. C'est vraiment uberisation de l'immobilier. Après, pour la mixité. C'est pas
Sont des start-upers.
C'est de l'entre-soi, mais pas tant que ça, parce que eux ils appellent ça des créateurs. T'as aussi des artistes dans les WeWork, des gens comme ça.
Mais
avec des backgrounds assez.
Pas d'employés, de salariés quoi. C'est que des gens.
Il y a des mecs en costard, il y a des commerciaux. Je te dis il y a HP, Facebook, IBM qui mettent des gens aussi dans ces endroits.
Là tu parles de work, tu parles pas de live.
Oui.
Parce que toi tu réagissais sur la partie on vit ensemble.
Oui.
Alors, mais tu crées la communauté pour le travail. Je suis à peu près d'accord parce que c'est ce vers quoi les entreprises traditionnelles s'orientent aussi, des grands espaces partagés, machin, et tout le monde peut prendre le bureau de tout le monde, etc. Par contre, sur la partie vie, de toute façon, ça peut être qu'une période transitoire. Parce que
c'est ce que je me dis aussi.
Tu peux pas vieillir dans un truc comme ça, c'est pas possible.
Ouais, c'est
en fait.
Ce qu'ils se disent aussi. Ouais. C'est
mais ça. Est-ce que je vous touille un petit peu les uns les autres. Est-ce que justement le raisonnement des boss de WeWork. C'est justement, à l'époque, il y a eu des résistances à l'open space, puis au coworking. Mais on se rappelle que dans les années 80-90, avec les premiers open space, les gens étaient ulcérés parce que normalement, chacun avait un bureau fermé par rapport aux autres. On ne travaillait pas en entendant les gens. Aujourd'hui, l'open space est devenu la norme en entreprise. Le coworking, c'était quelque chose aussi qui choquait un peu les gens il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de coworking. Est-ce que justement, je me fais l'avocat du diable, le co-living qui est décrit ici et que nous, on voit tout de suite la caricature, les excès les problèmes ou les limites, est-ce que ça deviendra pas énorme parce que ça apporte beaucoup de bonnes choses et qu'effectivement, la solitude et l'individualisme des années 80-90...
Parce que l'open space dont tu parles et que tu considères comme ayant gagné, il est décrié au quotidien en fait. Il a gagné de fait parce que ce sont les patrons qui décident de comment ils agencent leur bureau, mais il y a absolument personne que je connais qui est content d'être en open space.
Je crois que les bureaux fermés étaient encore plus critiqués à l'époque où les gens avaient chacun un petit bureau de 8 mètres carrés fermé littéralement avec une porte.
Ouais, mais en fait, je pense que moi personnellement, parce que justement, à la Cogip, on est passé justement du bureau individuel fermé avec ton nom sur la porte à maintenant des grands plateaux. Je pense que le bon niveau du truc, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire des bureaux collectif de 5-6 personnes, tu vois, mais pas des plateaux de 300 mecs. Et franchement, je ne connais personne qui est enchanté de bosser en open space aujourd'hui.
Le co-living, il repose vraiment sur une perception hyper toxique de soi et des autres. C'est-à-dire que, en fait, ce que la personne a dans sa tête, il se dit « je suis un start-upper, je suis entouré de gens qui vont réussir, je vais réussir, je dois travailler, ils vont me motiver à travailler parce que j'ai pas la motivation en moi ».
Énergie.
Et donc c'est vraiment, mais c'est la
vivre avec Maxime Barbier,
c'est regarder la mort dans les yeux. Et je voulais juste vous faire une remarque, c'est que en France il y a des co-living et je vais vous dire ce que c'est. Donc il y a des maisons, il y a des maisons où les gens,
les hacker house,
on s'en occupe. Du matin au soir, il y a des CM et tout qui s'en occupent bien, qui monitorent tout.
C'est des maisons de retraite.
Exactement. C'est les maisons de retraite.
C'est les
maisons de retraite où les gens n'ont pas le choix d'aller et où ça se passe est hyper dysfonctionnel. C'est-à-dire que quand on pousse le curseur au maximum, c'est-à-dire est-ce quand t'as une personne qui s'occupe de toi du matin au soir et qu'on est dans un système capitaliste, c'est-à-dire qu'on veut réduire les coûts, eh ben, ça part en couille.
Il y a aussi les résidences de service qu'on voit pas mal dans les grandes villes qui sont, tu payes un loyer plus cher, mais t'as la piscine, le sport, le machin, qui sont dédiés notamment aux vieilles personnes.
Ça veut dire qu'on peut dire que, en fait, les maisons de retraite, c'est des We Live Seniors.
C'est ça.
Qui n'ont pas le vernis shiny du marketing.
C'est des We Live Early Access, quoi.
C'est peut-être ça, les We Dive.
Les We Dive.
Modulo le salaire, c'est quand même un peu plus diversifié qu'il y a un peu de tout dans les maisons de retraite. Voilà. Il y a des vieux.
Il en reste un petit peu, je vous le mets.
Mais ça, toi, t'avais fait une chronique sur nos amis start-upers Partouzer, qui pareil faisait des.
Elle a été étonnée.
Brotopia.
Je pensais qu'elle avait parlé du Airspace, mais non. Bah,
okay. Alors, Airspace, c'est vrai qu'à un moment, tu en parles rapidement.
C'est ce qui m'angoisse aussi beaucoup.
Tu en parles rapidement, Sylvain, dans le côté WeWork et la déco, etc. Mais il y avait aussi ce côté, ces jeunes bros, ces jeunes entrepreneurs de 20-30 30 ans qui gère la vie comme des bros et comme des nerds. Donc là, en fait, effectivement, il dit, pour comprendre les relations entre les gens, eh ben, je fous des algorithmes et du tracking partout. Est-ce qu'on se retrouve encore avec cette idée un peu brotopia d'une vision de mec un peu coupé du bon sens et de la vie qui se disent, je vais disrupter quelque chose grâce aux algorithmes, je vais mieux comprendre comment les humains fonctionnent.
Bah, faudrait aller voir à quoi ça ressemble. S'il va y avoir des étages avec des... Enfin, comment c'est réparti cette histoire? C'est genre, tu prends une chambre, il te donne une chambre.
Mais c'est vrai, est-ce que l'algorithme te met par rapport à des gens qui, à qui tu étais censé bien t'entendre, par exemple?
Ça dépend du projet de Niel ou du projet de Neumann, c'est pas exactement les mêmes.
Franchement, la répartition de l'espace, c'est hyper important.
Ben, en fait, c'est que les chambres, c'est comme dans les WeWork, les bureaux sont assez petits. Parce qu'ils se sont rendus compte avec les algorithmes qu'on n'avait pas besoin de forcément beaucoup de place dans un bureau pour bosser. Ouais. Par contre, c'est les parties communes qui sont gigantesques, en fait. C'est ça. Donc les cuisines sont hyper grandes, on peut faire à manger à plein, etc. Donc c'est plutôt comme ça que c'est organisé. Et après, ils ont mis en place ce qu'ils appellent des neighborhoods dans les We Live. C'est-à-dire que par groupe de trois étages, ils sont à New York, donc par groupe de trois étages, ils forment un quartier. Et via l'appli, ils peuvent se parler, etc. Et ils peuvent pas forcément parler aux autres qui sont pas dans le quartier.
Ah, le tribalisme.
Et ils font ça pour faire des tests, justement, pour savoir comment les communautés fonctionnent. Est-ce que les gens se rapprochent forcément
donc
quand
en
ils
fait,
sont
ils
voisins
du,
ou pas?
Ils font du AB testing sur la vie
en
des
fait,
gens.
En fait, ils ont un laboratoire. Et au lieu d'avoir des petites souris, ils ont leurs employés.
Parce donc que c'est pas gratuit, mais c'est toi le cobaye. C'est ça.
Voilà, c'est ça.
Enfin, sur cette partie-là, ils ont juste à aller dans les ghettos et voir que les Crips et les Bloods se mélangent pas. Hein.
Voilà, c'est
ça
tout.
Ça représente mieux. Hein.
Tu veux que si tu es Digital Practice, Senior Experience évangéliste, tu te mélanges pas avec un CM, avec l'étage des CM?
Ah ben, je pense pas.
C'est dingue.
Oh là là, c'est fou.
Et ce qui est assez génial avec Neumann, la chronique était déjà trop longue pour que j'en parle, mais il est marié à la cousine de Gwyneth Paltrow.
Oh là 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 là. Voilà. C'est quoi la start-up de Gwyneth Paltrow déjà?
Goop.
Je sais plus, mais en fait, elle gérait le branding de WeWork au tout début. Et elle a fait une sorte d'audit privé à son mari en lui disant qu'il était toxique en fait dans sa relation avec ses employés, qu'il était hyper autoritaire et qu'il faisait régner un peu la terreur parce qu'il pensait que pour que ses employés suivent ses directives, il fallait qu'ils aient peur de lui. Et en fait, sa femme lui a fait comprendre que c'était faux et du coup maintenant...
Maintenant, il a un écran géant avec une interface d'algorithme pour gérer sa relation aux autres.
Non, mais le pire, c'est que, quand il raconte l'anecdote de comment il a signé avec le mec de SoftBank qui lui a mis 3 milliards d'un coup, il avait vu sa thérapeute le matin qui lui avait dit aujourd'hui Adam tu n'es pas un négociateur. Donc quand le mec de SoftBank lui a donné son iPad avec une propale machin, il l'a regardé, lui a dit je ne suis aujourd'hui pas un négociateur. Il a signé comme ça.
Oh,
et c'est pour ça qu'il dit il est vachement tourné vers la communauté, le bien-être, etc. Parce que
il y a un côté Zuckerberg de l'immobilier quoi.
On dirait un mec
qui a un handicapé social et émotionnel et qui va essayer de comprendre les autres avec de la tech et ce qu'il pense être bien pour l'humanité. C'est fou. Ah
bah, on dirait Fibre Tigre qui aurait réussi une levée de fonds.
La backstory du mec c'est la parfaite histoire d'entrepreneur qui a vécu dans des kibbutz, dyslexique, qui a fait l'Air Force israélienne et ensuite qui est parti monter des boîtes à New York qui se sont toutes plantées.
Ouais.
Et, mais il y en a une qui a marché.
Et un jour, bam, tu vois, c'est vraiment. Il va y avoir des livres et des films sur ce mec.
Est-ce que ce sera possible de demander à un de ces co-living de le tester ou pas? Genre pendant un mois.
Ah bah, moi,
franchement, est-ce que l'un de nous serait chaud pour le faire pendant 30 jours?
Moi je suis chaud.
Moi, non.
Sylvain.
Le truc de Niel, je suis chaud.
Bah, c'est juste à créer une start-up de merde et à rentrer dans
la ouais.
C'est pas compliqué. Hein.
Franck Kéo. Ah, t'as déjà une boîte, non?
Alors, Franck Kéo, c'est très simple. Vous connaissez, là, vous êtes familier du concept de sur-app.
Voilà.
Je sais que ça peut marcher.
Alors, on rigole pas. On va demander. Vous savez quoi? On va demander.
Mais bonne influenceuse.
Moi, pour la vie que je mène en ce moment, avoir une chambre dans un co-living à Paris, ce serait idéal.
Ouais.
Non, mais quand je reviens à Paris, ce serait idéal. Ce serait parfait.
Tu vas revenir en Maxime Barbier.
Du jus de citron.
Énergie. Faire caca.
Faudra qu'on teste, en tout cas. Bon, en tout cas, premier, on demandera un de ces co-living, ce qu'on peut en faire. Merci, mon cher Sylvain. Eh bien, du coup, attaquons tout de suite la première FAQ.
FAQ.
Alors, c'est une question de Phil, aka Bob Lelève, sur Twitter, qui nous demandait une petite question d'hygiène numérique sur les mots de passe et les accès. C'est quoi aujourd'hui la solution efficace, réalisable et surtout pratique qu'on devrait tous suivre pour gérer ces accès et ces mots de passe? Vraie question ici, parce que combien de fois par semaine nous envoie-t-on un mail pour se renvoyer un mot de passe ou reset notre mot de passe, que c'est un bordel et qu'on essaie d'avoir des bons mots de passe?
Je pense qu'il n'y a pas deux personnes ici qui ont la même hygiène.
Alors, on va commencer. Alors, Mélissa, quelle est ton hygiène de mot de passe et d'accès?
One Password.
Et voilà.
Très bonne hygiène. One Password.
Quand je me suis rendu compte que je faisais 200 mots de passe tous les jours, je me suis dit, ah, je vais peut-être m'arrêter.
Donc One Password qui est gratuit pendant un an en ce moment d'ailleurs. C'est l'ambiance Black Friday.
Et si vous voulez une invite, j'en ai une.
Oh. Non, enfin, One Password est gratuit mais limité maintenant, je crois. Sur iOS, je sais que tu peux l'avoir gratuitement. Mais
est-ce qu'on peut dire en deux mots ce que c'est qu'One Password pour les gens qui ne connaissent pas?
C'est une appli qui stocke tous vos mots de passe et peut vous en générer. Et
qui génère surtout des mots de passe. Ouais.
Et qui en plus peut s'interfacer avec tes applications ou tes comptes automatiquement pour remplir tes mots de passe.
Mais Apple le fait en fait gratuitement maintenant.
Oui. Oui, mais ça ne marche que chez Apple.
Bah, les...
Ah bah non.
Là, c'est typiquement.
Oui, mais le jour où t'es en rade et que tu dois te brancher dans un cybercafé.
Ah, pour avoir une fiche S en bonne et due forme. Je comprends.
Non, OnePassword fonctionne autre part que sur des.
Oui, mais OnePassword, il faut que tu l'installes aussi sur la machine haute.
Non, tu peux l'avoir ton extension aussi, Chrome. Quoi. Voilà, exactement.
Tu peux l'avoir en extension Chrome. C'est là la puce.
Bah oui, mais donc c'est une extension Chrome sur une machine qui n'est pas la tienne. Dans ton cybercafé, tu viens avec ton.
Et bah, tu désinstalles ensuite.
Ah, ça c'est la porte ouverte.
Les fenêtres.
Ça.
Bon, en tout cas, ça marche autrement.
C'est une technique, ok. Voilà.
Daz, quelle est ton hygiène de vie?
Moi, j'ai une racine fixe et après j'ai des suffixes de password qui dépendent du service, du moment où je m'abonne.
Donc en gros, c'est mongolos plus la date plus le nom du service. Bon ben voilà, vous
avez en mixant les caractères et évidemment ils sont tous historisés.
Et tu t'en souviens?
Ils sont normalement en pure logique, j'arrive à peu près à m'en souvenir au bout de deux essais. et après je les ai évidemment tous compilés dans une note qui est chiffrée, verrouillée sur mon iPhone en local et pas dans le cloud.
Très bien.
Donc si je perds mon iPhone, je suis de la baise.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Sylvain, quelle est ton hygiène de mot de passe?
Alors j'ai une hygiène un petit peu à la Daz avec une racine fixe où j'ai rajouté des suffixes au fil du temps.
D'accord.
Puisque au fil du temps, les services ont commencé à demander des minuscules, des majuscules, de la ponctuation, des chiffres. Et du coup,
c'était 2002 à la base.
Bah à la base, c'était Sylvain, comme d'hab.
1, 2, 3, 4.
Donc j'ai commencé à rajouter des trucs. Et là, je suis en train de me dire que je vais passer sur le One Password qui est maintenant intégré directement dans Chrome.
Oui.
C'est-à-dire que quand on crée un compte sur un service dans Chrome maintenant et quand on clique dans le formulaire du mot de passe, il nous propose un mot de passe généré aléatoirement. Et il nous propose de le garder en mémoire.
C'est ce qu'Apple fait aussi, c'est ça que.
Oui, c'est parce que ça marche. C'est une bonne solution chez Apple, ça ne marche que chez Apple.
Oui, oui.
Fibre, quelle est ton hygiène sur les mots de passe et les accès?
Réponse de psychopathe, sans vouloir faire mon attention war, j'ai un mot de passe différent de haut niveau pour tous mes services.
Très bien.
Et pour toutes mes personnalités.
De tête.
toutes mes personnalités.
Je me souviens de tête, parce qu'en fait, j'ai la chance déjà d'être sur un BPO. Donc j'ai des...
Une chance.
En fait, je
Il vient de donner la clé de déchiffrement tous ces passwords aux gens. Ah, les gens, ils vont mettre des stickers BPO sur ton clavier.
Non, c'est pas BPO, non.
Ça veut dire que t'as les pipes et les anti-sages.
Et en fait, je mémorise ça avec mes doigts. C'est-à-dire, je mémorise la danse des doigts, voilà, exactement.
Mais tous tes mots de passe sont, parce que moi, par exemple, ma boîte mail, c'est un mot de passe qui ne rentre pas dans le cadre des autres services. C'est un truc à part encore.
Oui.
Pour être sûr que si quelqu'un arrive à déchiffrer la routine, il serait quand même baisé avec
avec le truc le plus important.
Bah déjà sur mon BPO, nativement, j'ai des caractères, genre j'ai le vrai point de suspension, trois petits points, mais en un seul caractère, tu vois. Donc j'ai des choses comme ça, genre le E dans l'eau majuscule en une touche, donc effectivement.
Bah okay,
j'ai
le mot de passe de Cybotic, c'est œil, point de suspension.
E dans l'eau, ok. Merci.
Donc voilà, c'est j'ai des bons caractères chauds, quoi.
Alors juste pour finir cette FAQ très rapidement, vous êtes tous sur des mots de passe, est-ce que vous voulez pas passer à autre chose? Le biométrique, la reconnaissance faciale, d'autres choses qui sont plus sécurisées et plus simples que les mots de passe.
J'ai vu que ce qui était presque un petit peu la mode, qui a été déposé et breveté, le patent a été déposé il n'y a pas longtemps, c'est le rythme cardiaque, qui est apparemment une signature unique chez un être humain.
D'accord.
Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus.
Ton rythme cardiaque est unique, donc tu peux mettre ton doigt comme un truc de biométrique,
ouais.
Et ça va juste regarder tes pulsations cardiaques.
Si t'es en stress, tu peux plus accéder à rien. Calme-toi.
Et tu paniques de plus en plus.
Calme-toi.
Les souffles.
Non mais je reviens.
Des usines de hackers russes.
Par rapport à ça, c'est qu'on dit que l'ADN est unique. Et en fait, l'ADN, c'est 1 sur 1 milliard. Ça veut dire que votre ADN est partagé par 7 personnes dans le monde. C'est-à-dire que rien n'est unique. Hein. Et tout le monde va être connecté un jour.
Non, mais tout. Donc, comme il n'y a aucun mot de passe. Enfin,
bon. Non, mais ce que tu disais, c'était que...
Là, parce que pour venir chez Apple. Ouais. Apple, t'as maintenant le biométrique sur la plupart des ordinateurs portables et tu as le Face ID sur la plupart des appareils mobiles.
Oui, et d'ailleurs, en fait, tu n'as plus ton mot de passe. Enfin, oui. Il te le lance, il te met Face ID pour chaque truc et ça marche très bien. Ouais.
Oui. D'ailleurs, il faudrait une two-factor authentication pour tout, en fait. Et ça pourrait être une combinaison de mot de passe empreinte digitale.
Ou mot de passe social.
Tu vois. C'est vrai, très bien. Bon, bah, écoute, voilà, Bob le Lève, tu es servi. On est plutôt pas mal chez 404. J'imaginais plus des 1, 2, 3, 4 et des dates de naissance de mes parents.
Alors, nous tous, on est bien. Hein. Par contre, Studio 404, qualité, là, on est hyper.
Plus on attend, mieux c'est.
Alors, petit message secret à Sam, est-ce qu'on peut changer nos mots de passe
tout de suite.
Enfin, notre mot de passe pour tous les comptes sur 404 de qualité.
Ainsi que le document Drive où tous les
mots sont consignés. Mon Dieu, quelle catastrophe. Allez, on attaque tout de suite la deuxième chronique et c'est l'ami Daz qui va rentrer dans la danse.
Sujet numéro 2.
Si les réseaux sociaux arrêtent de donner les scores, en ressortirons-nous gagnants ?
Nous sommes en 2018 et ça fait à peu près 10 ans que les réseaux sociaux sont apparus dans nos vies. Je précise tout de suite, je dois la faire vraiment en 1.5 ou pas ? Déjà, ouais. question ou pas ?
Oui, parce que ton intro est très très longue.
Okay. Quand je parle de réseaux sociaux, je parle des trois principaux que sont Facebook, Twitter et Instagram. 10 ans d'utilisation donc, et un constat simple, on n'a jamais vu autant de gens mentir au quotidien. Je me rappelle avec tendresse d'une chronique de Fibre il y a quelques années où il disait qu'un jour, on en viendrait peut-être à faire des détours lors d'une visite touristique spécialement pour photographier un truc à publier sur Instagram.
C'est vrai.
Ça remonte.
C'est pas chronique criminelle, chronique visionnaire.
Contrairement à nombre de prédictions de Fibre Tigre, celle-ci a vraiment eu lieu. Je dirais même qu'elle a complètement explosé les attentes de notre Fiber puisque non seulement on fait des détours pour poster des trucs photogéniques sur Insta, mais on part dans des endroits parce qu'ils ont un potentiel d'Instagrammabilité élevé.
Mélissa a souri.
Et même pire, on poste des photos d'endroits où on n'a jamais foutu les pieds.
Non.
Cette expo de Klimt à l'Atelier des Lumières, j'y suis jamais allé, j'ai récupéré une photo sur le portable de ma daronne. Ces flamants roses qui s'élèvent majestueusement au-dessus de l'Atacama au Chili, des photos d'une collègue qui en revient. Perso, j'en suis encore à gauler des photos en random sur Internet. Non, j'en suis pas encore, pardon. À gauler des photos en random
révélateur
sur Internet.
Daz.
Autant pour moi. Il me faut quand même un degré de séparation avec la visite réelle. Mais je comprendrais que des gens avec une famille moins cultivée que la mienne ou des collègues moins blindés que les miens se mettent à choper des trucs sur Google Images pour pimper un peu leur profil. Mais pourquoi on fait ça ? Pour une raison simple, pour le score, pour la validation.
Le fameux.
Les réseaux sociaux ont fait de tout le monde des personnes publiques. On ne tweete pas dans le vide, on tweete pour être lu. On pense le tweet, on le répète avant de le poster pour que ça sonne bien, que ça percute. On pèse chaque mot pour éviter de trigger une communauté en particulier, les cheveux violets, tout ça, les licornes. On regarde l'heure pour maximiser...
Attention.
J'étais en drift. On regarde l'heure pour maximiser l'impact du poste. Fibre Tigre programme ses tweets. Fibre Tigre efface les tweets qui n'ont pas marché pour les reposter l'année suivante en espérant de meilleurs résultats. Fibre Tigre est fou. L'âme ne reply pas pour rester mystérieux et ériger une barrière mystique entre la plèbe et lui. On a tous nos trucs. Oui, maintenant tu quote reply, espèce d'escroc. Et nos trucs, on les a pas pour la beauté du geste. Non, on le fait pour scorer comme des salopards. Jusqu'en mai de cette année, Cloud se proposait de calculer ce score.
Alors, ah, ce bon vieux Cloud.
Le cloud, donc le site a fermé, mais son héritage est resté dans nos têtes, sans forcément qu'on en ait conscience. La perception des autres, par exemple. On ne met pas tout le monde au même rang. Un compte qui suit 2500 personnes mais n'est suivi que par 75 paraîtra moins intéressant qu'un compte avec des chiffres indiquant l'inverse. Un compte qui répond à tout le monde mais n'obtient aucune réponse sera jugé de la même manière, durement. Un compte qui like absolument tous les tweets de sa TL aussi. Coucou Bastien. C'est totalement arbitraire et profondément débile, mais c'est comme ça. Et vous savez quoi ? Je vais être totalement honnête avec vous. Pendant 10 secondes, on va se dire la vérité un petit peu pour changer. Si t'as 1500 following et 10 followers, il faut que ta réponse soit sacrément intéressante pour que tous les chiens de la casse autour de cette table te répondent.
Oh, c'est faux.
N'importe quoi.
Mais sache, petit compte, que jusqu'au 31 décembre, moi, je te répondrai.
Ah, c'est l'année de la bienveillance.
Après cette date, ça sera fini de 2018, année de la bienveillance. Alors profite, c'est gratuit. Un autre héritage de Cloud et de ses semblables, c'est qu'au final, on ne tweete pas ce qu'on pense, on tweete ce qu'on pense, que nos followers pensent qu'on pense. C'est le game. That's how we do, comme le dit si bien Doobie. Et comme on dit aux Amériques aussi, don't hate the player, hate the game. Mais voilà, au bout de 10 ans, il semble que les game makers, justement, on est un peu ras-le-cul de cette course au score qui produit à peu près les mêmes effets que la course à l'audience à la télé et la course au clic sur la presse en ligne. Enfin, sur Slate. On perd le fond en cherchant à capter l'audience sur la forme. Twitter, par exemple, a annoncé récemment vouloir mettre moins d'emphase sur le nombre d'abonnés et d'abonnements des profils utilisateurs.
Révolution.
Incroyable. Pour que cette info ne soit donc plus l'info la plus importante aux yeux des gens qui visitent votre profil, car les gens cliquent sur les profils sur Twitter. Dans un move du même acabit, Instagram a annoncé vouloir refondre son interface pour faire à peu près la même chose. Gageons que les différents papiers sortis l'année dernière qui expliquaient qu'Instagram était la plateforme qui déprimait le plus les ados et les jeunes adultes ont dû peser dans la balance. Le message semble assez clair. Les influenceurs ne sont pas la raison d'être de ces plateformes. Il faut revenir aux fondamentaux, le partage et la spontanéité. On mesure l'absurdité de ce que sont devenus ces endroits quand on se dit que les utilisateurs les plus assidus ont souvent deux comptes déclarés, un public, l'autre privé, quand ce ne sont pas carrément donc les Finsta, donc une myriade de comptes complètement secrets qui permettent aux personnes de ventiler un petit peu, de shitposter, de se laisser aller, bref, d'être eux-mêmes. Comme si tout ce qui est posté sur le compte officiel, gros guillemets, hein, pouvait être utilisé contre leur propriétaire dans une action en justice, mais évidemment, ça arrive à tout le monde.
Bisous à Dolce Gabbana.
Comme si donc chacun d'entre nous, oui, bah alors là, bon, du haut de notre insignifiance à l'échelle de l'humanité, étions vraiment des personnes publiques au même titre qu'un politique, un artiste, un sportif de haut niveau ou Stefano Gabbana. Stefano ?
Stefano Gabbana.
Stefano Gabbana. Chez 404, on n'aime pas trop faire le distinguo entre Internet et la vraie vie, mais les golmutes avec un compte tagué officiel ou un compte privé ou N compte privé me forcent à reconnaître que les réseaux sociaux ont quand même grandement contribué à cette grande désynchro entre l'image qu'on renvoie en et hors ligne. Ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai. Ces mouvements de prise de conscience de l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la vie de leurs utilisateurs, on les avait déjà croisés l'année dernière, ou en début d'année, je ne sais plus, quand on parlait du mouvement des déconnexionnistes, de la dopamine et de la course au like. Twitter et Instagram tentent de faire comprendre que le message a été reçu et que... c'est pas la peine de vous déconnecter, les gars. En fait, restez, c'est cool aussi, quand même. Il suffit donc de rappeler aux gens qu'ils ne sont pas des influenceurs. Logiquement, en plus de la pression moindre exercée sur eux-mêmes, la qualité des publications et des interactions qu'elles suscitent s'en trouverait grandie. C'est le message relayé par un article des très bons Ouzbek Erika qui parle de Demetricator.
Demetricator.
Demetricator, donc, c'est une extension qui permet de masquer le nombre d'abonnés, de likes et de retweets des principaux réseaux sociaux pour ne garder que ce qui compte, le contenu, libéré de tout indicateur d'audience.
C'est beau.
Cette extension fait écho à un tweet posté par l'inénarrable Kanye West, mon héros personnel, habitué lui aussi des drifts et sorties de route en tout genre.
Ah bah lui, il se crée ses chemins.
Mais qui parfois fait preuve de la finesse et de la sensibilité qui ont fait sa renommée.
Ah bon ?
En septembre dernier, donc, Kanye disait sur Twitter « Nous devrions être en mesure de participer aux réseaux sociaux sans avoir à montrer combien de followers ou de likes nous avons. » De la même manière que nous pouvons désactiver les commentaires, nous devrions pouvoir désactiver l'affichage du nombre de followers. Car ce nombre a un impact fort, négatif, sur notre estime de soi.
Bravo, wise, Kanye. Wise words.
Bravo, Kanye, tu as totalement raison. Puis juste après, il fait « Make America great again ». Et là, bon. Twitter et Instagram, et donc Facebook, ont commencé à réduire l'importance accordée à ce chiffre. Peut-être qu'à terme, il disparaîtra purement et simplement. Le DAS humaniste a envie d'y croire, mais le DAS normal, il se dit que Twitter et Facebook ont quand même pas mal galéré avant de trouver leur modèle économique, donc ça me semble un peu compliqué de jeter par la fenêtre un des seuls trucs qui permettent aux annonceurs d'attribuer une valeur potentielle à un message posté. Ceci étant dit, il va quand même falloir repenser ce modèle à un moment donné, parce que deux faits indiscutables sont désormais acceptés quand on parle des réseaux sociaux et de l'audience. Petit 1, les gens trichent. Beaucoup achètent des likes, des followers, des vues, voire... Et ça, c'est vraiment scandaleux et abject. Des écoutes pour les officines podcastiques les plus sombres du pif.
Deuxièmement. Pourquoi il n'y a pas de nom d'un ce coup-ci là ? Pourquoi tu dis pas bonjour 1-1 ?
De quoi ? Ah, il là faut que je dise binge. Voilà. Ou c'est quoi le truc de Radio Kawel ? Bref. Petit 2, bah, au moins ils nous écouteront. Les réseaux sociaux sont au courant que les gens trichent. Twitter fait régulièrement le ménage et kill les faux comptes et les bots. Facebook, après avoir un peu contribué à détruire les fondements de la démocratie, commence à nettoyer les pages de groupe un peu shady et à checker les faux comptes et les news associés. Et Instagram shoot carrément les faux likes, les faux commentaires et les vrais comptes qui font appel aux faux likes et aux faux commentaires.
Ça vient d'être annoncé.
Cette semaine, ouais.
C'est un pas dans la bonne direction. Un second serait que les annonceurs comprennent qu'un organisme neutre façon médiamétrie, bah, ça n'existe pas sur Internet et que la richesse générée par les comptes des influenceurs et donc leur valeur intrinsèque a peut-être été un poil surestimé par les plateformes. Sylvain m'a d'ailleurs indiqué que c'est Unilever qui avait pris les devants et annoncé refuser de travailler avec les influenceurs qui gonflent artificiellement leur audience. Bien ouais, Unilever.
Personne.
Dans l'optique totalement pessimiste et où absolument rien ne changerait et où les annonceurs resteraient toujours aussi cons, une alternative reste possible. N'afficher ces métriques qu'au seul compte certifié comme professionnel. Il ne restera alors plus qu'une petite étape assez simple, définir ce que c'est qu'un professionnel sur les réseaux sociaux. On pourrait peut-être gérer ça avec un CABIS, une déclaration URSSAF. Faudrait se déclarer au PMU d'en bas, ça ferait des démarches. Ok, bougez pas. J'enfile mon blazer en velours côtelé et mes coups de patché de VP Digital Lead Prospective Futuriste de 404 Consulting. Imaginons un monde sans like, sans nombre d'abonnés, sans retweet. Un monde où le sens prime. Un monde où l'accent est mis sur la conversation et l'échange d'idées en mettant de côté l'ego. Un monde où la pression induite par la course au like disparaît. Un monde bienveillant, un monde de sens et d'idées, un monde libre. Ce monde existe, ça s'appelle Kyo et tout le monde s'en bat les couilles.
De ça s'appelle
quoi ? Vous connaissiez Kyo ?
Non.
Eh ben voilà, tout le monde s'en bat les couilles. C'est le premier réseau social sans métrique de followers, d'abonnés, de... Non, Kyo, pas Kyo.
Ça date
Kyo.
De quand ?
Ça date de cette année. Okay. Genre février quand même. Hein.
Ah ouais.
Et bonne tout le monde s'en branle. Voilà.
Passé complètement inaperçu, sous les radars.
Mais ok, projetons-nous dans ce monde où Twitter et Instagram n'ont plus aucun de ces indicateurs.
Allons-y.
Comment faire le tri entre les messages triviaux et ceux qui ont une importance capitale ? Imaginez un monde où un tweet d'insurrection marquant le début d'une révolution dans un pays autoritaire, potentiellement du Moyen-Orient, est perdu dans une masse de tweets banals remplis de mèmes et de shower thoughts. Donc les pensées de douche.
Les pensées de douchebag.
Tous les messages ne se valent pas, parce que toutes les infos ne se valent pas. Certains se limitent à la sphère privée, ok, donc t'as des infos comme ça que tu partages avec ton cercle proche, mais d'autres doivent absolument être partagées avec le plus grand nombre. C'est comme ça qu'on fonctionne et c'est pour ça qu'on a créé les journaux à la base, les potes. Un Twitter sans moyen de mesurer l'importance d'un message et sans mise en avant perd toute son utilité. D'autant plus que les users sont un peu malins. Si un tel virage était pris, on mettrait pas 3 jours avant de trouver une alternative, genre des commentaires avec des emojis bien spécifiques pour indiquer que ce tweet-là, lui-là, il est bien. Après tout, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où absolument tout le monde comprend à quoi correspondent les emojis pêche et les emojis aubergine.
C'est vegan.
Oui, bien sûr. Ça,
ouais. Merci Daz, on peut l'applaudir. Ah, Daz qui voit peut-être venir la fin du scoring.
Fin du scoring, ouais. Moi, je suis pas trop porté sur le score.
T'es pas trop porté sur le score ?
Bah, j'ai un petit compte, moi.
Mais au début de 404, tu te plaignais d'être le seul de ne pas avoir 1000 followers sur Twitter, tu te rappelles ?
1000 ?
Oui.
J'avais dit
1000. Oui, 1000.
Tu vois le chemin parcouru. Bah, que dalle, en fait. Que dalle. Que dalle, je suis à peine à 8000. C'est rien.
Tu vois, ça parle de score.
Mais t'as une communauté Allez. Soudée.
Mais j'ai une communauté. Il paraît que. Alors, vrai, véridique. Et il paraît qu'on a. On a une communauté.
Toi qui ou.
Qualité ?
Non, moi.
Ah, toi ?
Toi ? Ouais.
Tu dis.
Toi, t'es une communauté ?
J'ai appris ça.
T'as une dazotée ?
Non mais n'importe quoi.
Mais si.
Ben non, mais arrêtez.
Hashtag Daz Army ?
Non, peut-être pas non plus, mais j'écoutais un podcast justement, c'était Podcastorama là où ils interviewaient Podcastorama, celui qui fait le tour des podcasts. C'est ça.
C'est hein. Le podcasteur, non ?
Chez Castor,
non.
Il y a tout ce qu'il faut.
Podcastorama, tu l'as.
Oui.
T'as présenté. Ouais, t'as présenté. En fait, c'est un podcast qui présente les podcasts. Mm-hmm. Et donc à un moment donné, il interviewait Marvin et Arzel de Goodyear, oui. Qui disait oui, alors par rapport à votre audience, oui, bah cet épisode-là a bien marché, mais c'est parce qu'il y avait Daz et sa communauté. Et je suis là, qu'est-ce qu'il raconte ces connards là.
T'as scoré.
Apparemment, j'ai une Twitter, communauté.
T'as percé, frère.
Je sais pas. Voilà le lien vers mon SoundCloud. Bon, non, mais voilà, on a toujours. Enfin, t'es obligé de te mesurer aux autres. Donc on est toujours l'influenceur par rapport à quelqu'un qui se compare, mais enfin personnellement il y a zéro démarche de ce type-là.
Mais du coup tu nous as fait un petit drift en pleine chronique parce que t'avais l'air d'accueillir le recul du scoring, du poids du scoring dans les réseaux et dans ce qu'on fait avec bienveillance. Et puis après, ouais. Tu disais qu'un réseau sans scoring, enfin un monde sans scoring, n'a aucun sens. Et non, parce qu'il nous faut des directions et des hiérarchies.
En fait, je mets de côté le scoring individuel, c'est-à-dire ce mec-là est suivi par 10 millions de personnes.
Ouais.
Effectivement, ça, on peut shooter l'info. Par contre, il faut quand même qu'on réussisse à identifier ce qui est un bon message d'un message de merde.
Donc tu gardes le nombre de vues et le nombre de likes, quoi. Et le nombre de retweets.
Ouais, et le problème, c'est que tu vas aller sur le compte du mec qui l'a posté, donc.
Si les utilisateurs ne voient pas ce chiffre-là, mais par contre, l'algorithme du service-là, donc il peut choisir de mettre en avant les choses qui sont très retweetées.
Oui. Ouais, mais alors du coup.
Ce qui est mis en avant, c'est veut-à-dire que, tu vois.
Bah, il y a une mise en avant, mais.
On essaierait de craquer l'algo, comme à l'époque de Google, où il y avait l'algo de Google, pour faire du SEO.
Ça veut dire qu'en gros, tu aurais de la hiérarchisation, mais pas le scoring.
C'est ça.
Mais c'est encore pire, parce que ça veut dire que la plateforme a toute latitude pour, en fait, pousser ce qu'elle veut, sans qu'il y ait même pas de raison.
Ce qui est déjà un peu le cas.
C'est un peu le cas, mais au moins, t'arrives à démontrer que, tiens, on m'a baisé la gueule, là, tu vois.
Quand tu vois ce que Twitter te propose, qu'Instagram te propose, ils se foutent de ta gueule.
Et moi, quand je poste des messages dans les groupes de Gilets jaunes, je me fais supprimer mes contenus par Emmanuel Macron. Donc, ils sont cul et chemise. Kerder et Macron.
C'était avant ou après l'abolition de la Constitution?
C'était ce message-là, justement.
Fibre. comment, toi qui as voulu à un moment conquérir le monde via Twitter, comment tu imaginerais un monde sans scoring? Est-ce que tu serais en train de contempler un mur blanc devant toi et comme ça sans bouger?
Là, c'est un peu une psychothérapie que je fais là, mais déjà, j'ai une confession à vous faire. Mardi soir, j'ai fait un tweet. je veux dire, le tweet, il n'existe plus. Hein. Je vous dis, le tweet, c'est je trouve que les médecins sont un peu limités parce qu'on leur apprend à l'école à se laver les mains. Voilà. Et ce tweet, c'est un tweet drôle normalement.
Tu peux le redire. Alors, avec le ton. Qui...
Est-ce que quelqu'un a compris ce tweet?
Je trouve que les médecins sont un petit peu limités parce qu'à l'école, on leur apprend à se laver les mains. Ok.
On leur apprend un truc débile.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont rigolé, mais ils ont rigolé devant le silence, d'accord?
Ah oui.
Et effectivement, au bout d'une minute, j'avais un retweet, une réponse. D'une réponse d'un mec qui a dit quoi, tu vois.
C'était peut-être nous. Hein.
Et là, je l'ai supprimé, tu vois. J'ai supprimé, donc j'en suis là. Une donc minute. Effectivement, je suis encore dans ce game-là.
Ah, oui. Non, mais parce que tu n'aimais pas ce tweet ou parce que le score est insupportable?
Parce que le score est insupportable. Mais des fois, je fais des tweets, c'est complètement con, mais ça marche vachement bien. Je suis hyper content. D'accord. Et vraiment, en plus, quand j'ai fait un tweet avec beaucoup de retweets, j'ai l'impression d'avoir hyper bien travaillé cette journée. Tu vois, je peux rien faire de la journée. J'ai dit, oh là là, pff, quelle journée, tu vois.
Les retweets pleuvent dans les notifications.
Parce qu'il y a des
notifications.
Oh là
là, il y a tout le monde travail.
Il y a un truc que j'ai jamais fait. Mais vraiment, tu sais, j'ai la tentation, la main tremble. Je n'ai jamais acheté de followers. Mais vraiment, si un jour on m'en offrait, franchement, je serais heureux. Mais vraiment,
c'est
je l'ai jamais fait. Et franchement.
Je vois tellement le gif must not fap, mais c'est ça.
Des fois, j'ai dit, mais allez, tu vois, là, je suis à 39,1. Allez, 900 followers, je suis à 40. Quand même, ce serait super, tu vois. Bon,
donc, toi, t'es complètement dans ce que Daz illustrait, ouais. Qui est le scoring est plus important que le message.
Mais je voudrais dire quelque chose qui est très important, c'est que le scoring est plus signifiant que le scoring, et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, c'est plus signifiant que le scoring.
Tu vas nous l'expliquer en chanson?
Et en chanson, voilà. Non mais moi parfois j'ai un compte certifié qui pop dans ma TL, et genre il a deux retweets. Et un compte certifié avec deux retweets, c'est bizarre, tu vois. Surtout si le tweet il a 10 minutes, tu vois. Donc je regarde le compte certifié.
Donc dans le full scoring on parlait d'Az. Attends, alors là quel est le ratio following follower?
Mais non, mais ce que je veux savoir.
L'âge du tweet.
Voilà. Et donc je vais sur le mec, donc bio générique tout ça, et je vois que ses tweets effectivement ils performent à 2, 3, 5 retweets. Et là je vois qu'il a genre 140K followers. Et je sais que c'est un compte acheté, c'est un compte fake. Et ça on le sait. Et c'est pour ça que en fait c'est intéressant parce que tu sais que le mec il a acheté des followers et tu sais. Non, pas toi, Mélissa, c'est différent.
Mais ah oui, mais du coup,
mais,
c'est
mais tu vois que le mec, il est récent, tu vois. Tu vois que la meuf, elle a 20 ans, tu vois. Donc là, tu vois, tu comprends qui est la personne. Tu comprends beaucoup de choses qui sont non dites juste avec les chiffres. Et ça, c'est très intéressant.
Ah, le non-verbal.
Eh oui.
Ah là là. Et sur Instagram, comment ça se passe du coup? Parce que sur Instagram, il y a aussi une course.
Bah tu. Alors
sur Instagram, cette semaine, la semaine prochaine, il y a du monde. Il y a des gens qui vont se sentir maigrir un petit peu.
Ouais. Ah ouais, parce
qu'il y en a qui vont.
Parce que Instagram vient d'annoncer qu'il retirait tous les faux likes, les faux machins.
C'est trop bien.
Déjà sur Twitter, il y a des gens qui ont fait c'est un scandale.
Bah, et du coup,
il y a des mecs qui vont faire.
Mais toi, Sylvain, justement, t'as fait du gros hacking de ton compte Instagram. Tu nous l'avais un peu raconté. Je sais qu'il y a des gens qu'on connaît qui ont un peu emboîté ton pas et qui font des commentaires automatiques et des likes automatiques et qui vont dans des pools de likes, etc.
Quelle fumisterie, putain, c'est incroyable.
Tu sais qui c'est?
Non. De quoi? Des piscines bleues et
Ah non, lui, ah mais si, c'est vrai, il le fait.
Surpris.
Mais j'ai un petit truc à dire sur les Insta, c'est que comme les stories, les gens ne voient pas.
Alors ça, on y va juste après.
D'accord, ok, vas-y. Si,
bon, on finit juste avec Sylvain d'abord.
Est-ce que mes followers vont maigrir? Tu penses?
Mais toi, t'as fait du gros hacking de compte.
T'as fait des hashtags.
Pour avoir du score.
Je sais pas s'ils vont le capter, Instagram. Ouais. Parce que pour ça, ils vont regarder quand t'as donné ton accès autorisé à une partie tierce. Mm-hmm. Donc quand t'as donné ton login et ton mot de passe, t'as autorisé une partie tierce. Moi, j'ai pas utilisé ça. J'ai utilisé un script où je laissais l'onglet ouvert, en fait.
D'accord.
J'utilisais une simulation de mon clic.
D'accord.
Par navigateur interposé.
Donc ça,
ils vont pas le voir.
Mais
c'était pour la chronique. Attends,
bien sûr. Et j'ai restitué tous ces
followers. C'est ça le journalisme. C'est ça l'investigation.
Qu'est-ce que je les ai rendus après la chronique?
Ils cherchent un sponsor.
Je les ai rendus.
Mélissa, qu'est-ce que tu penses de cette fan scoring? Toi, Mélissa, alors effectivement, tu t'es retrouvée parmi les gens qui étaient recommandés sur Twitter. Donc aujourd'hui, t'as une sorte de.
Comme si j'avais acheté des gens, sauf que non. Mais j'ai fondu au moment de Twitter.
Ouais, en plus, quand on check ton compte sur. Est-ce que mes followers sont vrai, malheureusement, t'as un score inférieur à 50%, donc. Non, mais ça serait gênant. Je veux dire, si j'étais.
Bah, j'ai ma.
Oui, mais le truc, c'est que
dis
même
le mec
en enlevant...
qui est en train d'essayer d'avoir 40, tu sais. Ah bah oui, le 40, bah, le 40.
Mais en vrai, quand j'ai appris que t'avais 250 000 followers, j'étais hyper émerveillé, tu vois. J'ai dit,
je croyais que tu allais dire, j'étais un peu amoureux, tu sais, genre le mec.
Une personne à 250 000 followers, elle est là, elle est, genre, elle te parle et tout, c'est fantastique, tu vois.
J'y viens encore dans les années 90.
Et puis après, il a pas dormi pendant une semaine.
Comment je fais? Non, mais comment je fais?
En vrai, tu pèses, et en vrai, tu impressionnes encore vachement de gens, je pense.
Mais je suis pas sûre.
Juste par le score.
Ouais, je suis pas sûre.
Parce que toi, t'es pas spécialement active. Enfin, si tu fais la promo pour pour ce que tu bosses.
À l'époque, je l'étais. Enfin, oui. Au moment où je suis passée à ça, je l'étais avant. C'est pour ça qu'à mon avis, je le suis devenue.
Ouais. Tu t'as jamais été ultra active.
Si. Ah ouais.
Elle a été la première plus qu'active, elle a été activiste. Elle s'est battue pour le salaire des journalistes.
C'est vrai.
C'est ça qui l'a fait.
Il connaît la origin story.
Il y a aussi l'effet inverse. T'as une meuf qui tweet badminton, par exemple. Elle a 14 followers, 5000 retweets, mais elle restera à 14 followers, tu vois. Parce que c'est juste les gens qui.
Il a tout étudié. Donc, Fibre Consulting. Oui.
Donc, Fibre, on sait qu'il est perdu pour la cause du scoring. Voilà. En fait, depuis tout à l'heure, Fibre, il nous dit pas c'est bien, c'est pas bien. Il nous raconte toutes ses techniques de comptage de score et de recomptage de voix.
Ce qui est cool, c'est qu'il a pas changé en 6 ans d'émission.
Non, mais c'est bien, il est fidèle à ses principes. Mais est-ce que vous, du coup, vous aimeriez voir un monde avec moins de scoring? Et là, on peut effectivement parler des stories Snap et des stories Instagram, qui sont une révolution, puisque ces stories ne donnent pas le chiffre public de nombre de vues. Il y a que la personne qui l'a faite, qui voit le nombre de personnes qui l'ont vue, mais personne ne voit si une story est populaire, pas populaire, partagée, pas partagée.
Il y a toujours des followers qui, enfin, ça quand même, ça contribue à faire remonter ton profil, donc ça fait quand même grossir ton audience.
Oui, mais il n'y a pas de score.
Si tu gagnes des followers, si tu crées du contenu, t'es su par des gens qui peuvent potentiellement
Si des stories tu les hashtag, parce que si tu te contentes de filmer ça va
mais encore une fois
après, s'adresser à ta communauté, des gens qui te citent, qui fait que t'es mentionné, qui fait que tu vois,
en vrai quand tu postes trop de choses tu as de l'unfollow, ça c'est toujours non, et c'est pour ça que sur Twitter je me retiens
continue
vachement.
Quoi mais on t'a dit d'arrêter,
non mais attends,
j'ai dit juste un truc
c'est que depuis qu'elle est stories et que les gens ne savent pas si j'ai 72 viewers ou 10 000 viewers, franchement, je suis en mode, mais je fais des stories comme MBDF, c'est-à-dire des stories de une heure, je m'en branle, tu vois, et j'insulte les mecs, et je me sens libéré, c'est trop bien.
Mais donc, t'es
heureux. Ouais, c'est trop bien, ça me fait du bien, mais c'est bien qu'il y ait les deux, c'est bien qu'il y ait les deux mondes, c'est bien qu'il y ait le monde où on peut s'exprimer librement, tu vois, Clark Kent et le monde de Batman, de Superman.
Voilà. Tu vas trigger tous les fans de comics de l'histoire.
Je voudrais vraiment voir ce que ça donne, parce que ce truc où tu disais, on va dans des pays pour montrer la bonne photo. Genre j'ai le même appris donc il y a ce truc d'Instagram Spot où les architectes ils pensent à des endroits qui seraient bien photographiables.
Ah mais attends, mais moi je le mets dans mes rocos aux marques, hein, j'appelle ça l'Instagrammabilité.
C'est horrible, c'est comme les WeWork ou enfin tu vois.
Mais regarde la boutique de Make My Limonade, ils l'ont clairement dit, c'est une boutique instagrammable en fait.
Non mais c'est l'horreur. Donc non, ça je voudrais voir si le monde change s'il y a plus ça.
Mais tout ça parce que encore une fois le scoring, mais encore une fois si ce scoring disparaît, est-ce que vous on fait tous plus ou moins de stories et plus ou moins de tweets et plus ou moins de posts et plus ou moins de photos, on va dire. Okay, on est dans l'équipe producteur de tout ce genre de contenu. Mm-hmm. Est-ce que vous prenez aujourd'hui plus de plaisir à poster des photos ou des stories, par exemple, sur Instagram? Ça réfléchit.
Mais qui regarde les photos Instagram?
Non, moi pas des masses.
Hein. J'adore, je pense qu'on peut retrouver le moment où ici on disait non, les stories Instagram, jamais. Je pense qu'il y a deux ans,
moi-même,
en gros.
Moi-même,
un
j'y
an
croyais
et demi.
Pas. J'étais à fond Snap, maintenant.
Non, les stories.
Mais t'étais déjà à fond
cool.
Stories.
Ouais.
Les stories, c'est cool, mais moi, c'est plus le caractère éphémère qui est intéressant, plus que le caractère scoring, en fait. C'est de te dire, ouais. J'ai une vieille gueule sur ce truc, mais de toute façon, dans 24 heures, ça sera parti, donc on s'en bat les couilles. C'est ça qui, pour moi, est plus intéressant que de se dire.
C'est une forme de. Non, je vais pas dire que c'est une forme de scoring, mais le fait que ça disparaisse, c'est que de toute façon, tu n'as pas de bilan, tu n'as pas de.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est le fait que ça disparaisse pour les autres, mais que ça reste pour toi dans ton archive. Ça aussi, c'est un des facteurs qui fait que.
Complètement.
J'utilise plus Instagram que Snapchat. Snapchat, je sais pas si tu peux sauvegarder. Non?
Non.
Même pour toi, tu peux pas?
Tu peux sauvegarder dans les mémories.
Mais quand elles sont encore.
Ouais, quand elles sont actives. Ouais.
Donc, Insta, de base, ça sauvegarde. Hein.
Oui, c'est génial. C'est
ce qu'on dit. Ça, je trouve ça cool. Hein. C'est une archive.
Sylvain, est-ce que toi qui fais les deux aussi.
Ouais.
Et qui a donc un feed ultra clean et des stories un peu plus open, mais. Est-ce que justement le scoring te fait changer? Est-ce que c'est le scoring qui te fait changer ta manière de gérer tes stories et tes photos, ou c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui reste et quelque chose qui reste pas?
En fait, moi je pourrais me passer d'un scoring public.
Ouais.
Ça me poserait aucun problème et je pense que même ça m'aiderait à mieux dormir. Mais par contre, j'aimerais regarder des analytics en privé en fait.
Donc les stories aujourd'hui. Qui te donne ton chiffre en privé à toi, mais qui le donne à personne, peut dire waouh, cette story de Sylvain, elle a éclaté son score de magnitude.
Ouais, exactement.
Là, t'as juste déjà une question.
Daz.
Est-ce que tous ici, là, sur Instagram, par exemple, vous avez plus d'un compte?
Oui. Je n'ai qu'un seul compte.
Ouais, qualité, on a.
On a.
Non, non, mais.
Perso.
Attends, Mélissa.
Moi, j'en ai qu'un.
Quatre.
Quoi?
juste pour toi,
oui,
Mélissa.
Média.
Non, mais ah, non, pour toi.
Compte secret.
Pour moi,
un compte public, compte secret.
Non, un compte public. J'ai même pas de compte secret.
Pareil.
J'ai pas le temps.
Pas de Finsta.
Pas de Finsta non plus.
Toi?
Non, bah non.
J'ai été étonné de voir que beaucoup de mes amis ont des Finsta.
Ouais.
Ouais. Et notamment chez. Notamment pour liker, stalker des mecs ou des nanas qui kiffent sans qu'ils se fassent griller.
Oui, exact.
Donc les Finsta servent beaucoup à ça. Ou effectivement hurler dans un oreiller et raconter de la merde, poster de la merde.
En fait, oui, parce qu'il y a des tarés qui vont mater tous les gens qui regardent ta story.
Ouais.
Et qui vont te contre-stalker derrière.
Exactement, parce que évidemment, un des scorings, c'est que tu peux voir tous les gens qui ont regardé tes stories, même les gens qui ne sont pas abonnés à toi.
Ouais, tu peux les nominer, quoi. Enfin, tu peux les voir nominément.
Donc moi, par exemple, quand je mate une meuf, je fais avec mon compte principal. Donc je peux être repéré.
Tu lui poses un petit leurre, quoi.
Non, mais ça, c'est dans les stories, parce qu'on est d'accord que pour les photos, machin, à part si malencontreusement, tu double tapes et tu likes la photo sans faire exprès alors que tu voulais scroller.
Souvent, hein. Ça arrive encore,
ouais. Mais il y a du vécu dans ce que vous avez dit, les gars. Ouais.
Cela dit, dans les stories, on va dire quand tu dépasses un certain nombre de views.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, quelques centaines, c'est compliqué de spotter des gens. Hein.
Ouais. Oui, mais quand t'es les fameux micro-influenceurs dont
par contre, il y a un truc, il y a un truc un peu les gens.
Mélissa, elle a du sucre.
Non, il y a un truc.
La chronique stalking de Mélissa arrive, vous inquiétez pas.
Message à nos amis stalkers quand même, c'est que quand vous stalkez sur Insta, en fait, on vous voit. Insta vous met un avant les autres. Donc, on remarque quand même qui sont les stalkers sur les stories Insta.
Ah oui, moi je sais, je suis cramé. Hein.
Après, sur la partie Twitter, revenons au scoring. Sur la partie Twitter, c'est vrai que étant maintenant un compte à 8000 followers,
micro-influenceur,
mais sur les 8000 followers, j'ai 8000 personnes qui vivent vraiment et qui du coup me cassent les couilles. C'est vrai qu'il y a certains tweets. Tu vois, je me dis en le postant, je suis ah putain, je suis sûr que les mecs qui ont pas, tu vois, l'historique.
Ils ont pas
de mon compte Twitter, tu vois, ils ont pas le lore, ils ont pas les clés et tout, ils vont me tomber dessus au premier degré, ça va me casser les couilles. Mais par contre, règle d'or.
Est-ce que tu seras notre médium?
Je réfléchis avant de poster.
Donc tu réfléchis.
Je réfléchis quand même un minimum. Il y a une ligne éditoriale à respecter.
Est-ce que tu t'entraînes devant ton miroir?
Ouais. C'est à appuyer fort comme ça.
Par contre,
à répéter ton tweet.
Non, par contre, quand c'est posté, je retire jamais. Même si j'ai des cheveux bleus, des licornes qui me tombent sur la gueule en disant ouais, ce que tu dis, c'est pas inclusif. Bleus. Je m'en bats les couilles.
Et si
je
t'as, retire si t'as zéro like.
Non, je retire. Ah non, mais alors ça, c'est pour moi l'image du désespoir.
Attends, si t'as relayé une fake news.
Je dis, non, autant pour moi, c'était une fake news, je me suis fait baiser.
Okay, donc
si elle est vraiment touchy, genre on voit des cadavres d'enfants syriens, tu vois, en fait, je l'aurais pas posté depuis le départ parce que je sais pas. Hein, voilà. Mais franchement, je me suis dit. Ok, je vais au moins essayer de faire ça, c'est-à-dire rester honnête dans la démarche, puisque moi je réfléchis avant, parce que je trouve ça ridicule, les mecs qui postent de la grosse merde, qui sont parfois pères de famille, qui ont, tu vois, des responsabilités, qui disent « Ouais, en fait, j'ai été hacké », ou « Non, mais je voulais pas dire que tous les noirs sont mauvais, mais en fait, tu vois, non, à partir du moment où t'as pris le temps de le poster, c'est que tu l'as pensé, donc c'est foutu. En fait, va au bout de la démarche, excuse-toi, mais fais pas comme si le truc, il avait jamais existé, en fait.
Bon, on a bien dérapé loin du scoring.
Pardon.
On est dans l'assomption. Je pense que c'est la fin de ce deuxième débat. On va attaquer tout de suite la deuxième FAQ.
FAQ.
C'est une FAQ concise, c'est une FAQ qui sait ce qu'elle veut, c'est une FAQ de grand poil sur Twitter, qui nous dit « Comment en 2018 peut-on encore acheter Apple ?»
Une FAQ qui veut foutre la merde.
Alors Fibre Tigre, qui, à la surprise générale, a levé la main pour répondre en premier. Fibre, quel est ton avis?
Eh bien, en étant milliardaire.
Voilà, très bien. Un avis de Fibre Tigre.
Un avis de gilet jaune.
Je vais me faire l'avocat du diable de c'est moi-même vrai. En oui. disant, en achetant pour une entreprise qui est peut-être celle qui respecte aujourd'hui le plus la vie privée de ses utilisateurs.
C'est vrai. On se rend compte que ça commence à devenir une question de valeur plus qu'une question de perf ou de spec. Daz, toi qui as acheté l'iPhone XS Dubaï.
Moi, Apple, je déteste, mais je veux aussi me faire l'avocat du diable.
Attendez, décrivons la situation. Hein? Il a un
Je caresse mon Apple Watch avec mon iPhone Gold. 10 pendant que je le pose sur mon iPad. Mais
c'est réel.
Non, en fait, je rejoins Sylvain sur la vie privée. Et je pense que ça et l'autonomie, ça va devenir les deux grandes causes dans l'achat d'un truc, d'un smartphone d'ici 3-4 ans. Et
d'ici
aussi,
3-4 ans.
Ouais, je recule parce que les gens sont plus cons que ce que je pensais.
Le prix un peu aussi, je crois.
Le prix fait mal au cul, mais surtout 100% à base d'aluminium recyclé, les gars. Comme prédit chez Surfrider, personne ne me croyait. Et un mois après, voilà.
Attends, c'est pas le cas de ton iPhone XS, c'est juste le cas du MacBook Air 2018.
Oui, mais parce que l'iPhone XS est en acier.
Et puis c'est juste
Mais l'iPhone XR,
c'est juste le châssis, les gars. Non, ne vous enflammez pas non plus.
Oui, évidemment, on va pas recycler une carte mère en aluminium, imbécile.
Et puis après
ni du cobalt.
Le cobalt, et le silicium et le cuivre et tout ça. Mélissa, comment peut-on encore acheter du Apple en 2018?
C'est pour décrire la scène, Mélissa.
Ce MacBook Air date de 2012.
Il faut le changer, je te l'ai déjà dit.
Non, attends, c'est 2012.
Il fonctionne
2012,
hyper bien. Mais franchement, j'ai vraiment pas de problème.
Mais il faut quand même le changer.
Il est juste blindé de trucs et du coup, il plante.
Bah, j'espère bien qu'au bout de 6 ans.
Tu as posé ton iPhone,
et donc, il y a un iPhone 7 dessus, mais que j'ai acheté à un prix défiant toute concurrence à une personne ici présente.
Est-ce que c'est pas pire d'acheter du Apple d'il y a 4 ans?
Bah non, parce que ça marche.
Que de pas acheter du Apple du tout.
Bah mais non, pourquoi?
Est-ce que c'est pas pire? Est-ce que c'est pas un wannabe? On n'arrive pas parce qu'il n'a pas les moyens car il est pauvre.
Ça sert à rien.
Ça, c'est
oui. Totalement.
Voilà,
oui,
donc,
quelle connaissance. Donc, en gros.
On peut avoir les moyens si on l'a acheté il y a 6 ans.
On a un bourgeois connaissant qui est d'Az. On a une amatrice d'Apple parce que pour elle, ça marche bien. Qui est Mélissa, qui est genre.
Et longtemps.
Enfin, tu n'as pas acheté en 2018, mais tu l'as acheté il y a longtemps. Achèterais-tu du Apple cette année si tu devais racheter quelque chose? Voilà, question.
Je pense, oui.
D'accord. On a un Sylvain qui est un Androidos, mais avec une crise de conscience. Voilà, qui dit merde.
Tu vis dans ces paradoxes.
Dis donc, c'est fou. Je paye moins cher, mais
bien,
j'ai donné mon âme au diable.
Et on a fibre qui gilet jaune.
Plus jamais. Plus jamais. Je suis sorti de l'iPhone. J'ai un 6, un
OnePlus 6.
Un OnePlus 6.
Que ce mec, il sait même pas ce qu'il a.
Je sais pas ce que j'ai, mais je l'adore.
Là, par acquis de conscience, pour sortir du troll 30 secondes, je rejoins quand même Grand Poil sur la partie ordinateur d'Apple, donc les MacBookers, où évidemment, je me pose aussi la question. Voilà. Oui.
Très bien. Et ben voilà, Grand Poil, tu as ta réponse. On attaque tout de suite le troisième sujet. Et la super-héroïne du stalk est de retour. Ah. C'est Mélissa.
Sujet numéro 3.
Le dernier rempart entre votre vie privée et moi, c'est votre épaule.
Ligne 8, fille du calvaire. Un lycéen, 15 ans environ, lit Harry Potter sur un vieil iPhone 4. Et entre deux pages, répond à des textos de son petit démon emoji cœur en lui disant qu'il l'aime aussi et qu'il est désolé de ne pas lui montrer plus que ça.
Oh. Ça, c'est fibre.
C'est beau comme du bio.
Ligne 8, Saint-Sébastien Froissart, un trentenaire regarde une vidéo de quotidien sur Twitter. Mehdi Meklat s'excuse pour ses tweets racistes et homophobes. Ligne 8, Concorde, une femme, Violette quelque chose, répond à un mail demandant une photo d'Audrey quelque chose. Dans sa signature de mail, je comprends qu'elle travaille chez Cartier. Ligne 8, bonne nouvelle, un mec joue au basket sur NBA Live, j'arrive même pas à le dire. Ligne 5, gare de l'Est, une femme est sur Facebook et lit des textes en arabe sur fond blanc, aucune idée de ce qu'elle lit. Ligne 9, rue de la Pompe, un homme de 40 ans fixe une carte en JPEG, pas sur Google Maps, pendant 4 stations, je ne comprends pas de quoi il s'agit, il ne décolle pas si on regarde cette image, je suis fasciné, mon œil est trop loin, je scotche, je ne sais pas ce qu'il fait, 4 stations. Un homme, 35 ans je dirais, casque sur les oreilles, fixe une discussion WhatsApp avec deux personnes où il n'y a que des sons, aucun message texte, j'ai jamais vu ça, pourquoi? Un mec zoome dans un selfie de lui et de sa meuf, une copine à côté de lui, elle ne sait pas ce qu'il fait. RERB, Luxembourg. Une jeune femme sur Snapchat regarde son profil en boucle. Ligne 9, chaussée d'Antin Lafayette. Un jeune mec sur Snapchat regarde une vidéo d'un mec en salle de sport qui regarde son temps, nombre de calories, passe ses textos, met à jour ses mails, la 4G ne passe pas. Ligne 9, Richelieu Drouot. Un jeune homme joue au solitaire, jeu de cartes. Passe ses textos, revient à son solitaire.
Stand clear of the closing doors, please.
Traversons l'Atlantique, les amis.
Traversons l'Atlantique.
Ligne M, Lorimer Street à Brooklyn. Une femme est sur Facebook. Ah non, je vois pas très bien. C'est un verset de la Bible qu'elle lit. Elle swipe, elle passe au verset du jour suivant. C'est une appli de Bible. Ligne M, Flushing Avenue. À côté d'elle, une jeune femme est sur Instagram. Trentenaire, joue à du sudoku, qui a l'air hyper stylé. Le design épuré me donnerait presque envie de faire du sudoku. Ligne M, Myrtle Avenue. À côté, Spotify. Un mec écoute Fools. À côté Instagram, à côté une femme sur son téléphone, lance l'appli de podcast, écoute, terrible, thanks for asking, fourre à nouveau son téléphone dans sa poche, j'ai souri. Je vois si rarement des gens écouter des podcasts en France. Ça me rappelle quand je voyais des gens sur Twitter dans le métro en 2010. Vous l'aurez compris, j'ai passé les 15 derniers jours à shoulder surfer.
Shoulder surfer.
À être cette fille qui regarde par-dessus votre épaule en loose day. Si je suis honnête, ça fait depuis que je suis en âge de prendre les transports en commun que je surfe via votre épaule. Quand c'était encore des livres que je lisais par-dessus votre épaule, c'était de la curiosité. Maintenant que ce sont des textos, c'est du stalking. Je vous espère, tout va si vite. Suis-je seule ? Forcément, il y a une étude allemande.
Ah, c'est pas du tout américaine.
Menée sur 174 personnes, la grande majorité se disait motivée par la curiosité et l'ennui. Mais 27% des gens se sentent quand même mal à l'aise de faire ça. Culpabilité, clairement, c'est pas mon cas. Qu'est-ce qui voit le plus ? Du texte, puis des images, puis des jeux. Et ce que ça révèle surtout, c'est du contenu qui parle des relations de l'utilisateur, mais pas vraiment de l'utilisateur lui-même, plus de ce que les gens font autour de lui et les échanges qu'il a. Alors du coup, je vous ai demandé à vous aussi autour de cette table, vous êtes aussi des shoulder surfers, certains plus extrêmes que d'autres, et vous avez l'air de plutôt bien le vivre. Par exemple Sylvain, tu me racontais que dans un bus à Londres, le 73 pour être précise, tu as lu l'intégralité de l'échange d'une meuf avec son groupe WhatsApp de copines. Elle sortait d'un dîner féministe et elle faisait son retour d'expérience en mode « Imagine 12 hungry girls in the midlife crisis sharing a dinner with no booze. No fucking booze. What does that ?» Tu essayais de deviner pourquoi elle y était allée, qui était dans ce groupe WhatsApp, pourquoi elle effaçait certaines tournures de phrases pour les réécrire, hésitait à envoyer certains messages. Tu essayais de reconstituer la vie de cette personne. Tu dis « C'était passionnant et hyper intrusif. J'ai bien kiffé. »
Tu valides, ouais. Sylvain.
Je valide très bien tout ce qui est...
C'est sorti du Slack de 404. Sam, qui n'est pas autour de ta table, mais pas loin.
Qui est en train de dormir.
Tu me rapportes qu'un gars regarde un film Marvel, The Punisher, sur la ligne 3, qu'une femme est sur le site de e-commerce, placedestendances.com, et qu'une autre femme a carrément son ordi et check ses mails sur son Mac dans le bus 58, entre le 14e arrondissement et le 6e arrondissement.
C'est normal.
Alors, quand les iPhones sont devenus plus grands, j'ai remercié Apple. Quand Samsung a sorti son Galaxy Note, j'étais la femme la plus heureuse. Et là, vous vous dites, on est en 2018 et Studio 404 découvre le shoulder surfing. Super. Je vous réponds, attendez, ce n'était que mon intro, je suis page 3.
Ben, c'est fier de toi.
Bravo.
Aujourd'hui, je fais des captures d'écran mentales de vos téléphones, tablettes, ordinateurs pour sortir de ma bulle, car ma consommation de contenu en mobilité est ennuyeuse. Mail, texto, WhatsApp, Instagram, mail, texto, Twitter, Facebook, Le Monde, New York Times, banking, Instagram, mail, texto.
C'est vrai, c'est chiant.
À New York, j'étais d'autant plus détendue que, quant à mon invasion assumée qu'il y a des écrans partout. Vous avez les écrans de vos voisins, mais il y a aussi ceux des pubs dans le métro, des pubs dans le bus où c'est des écrans qui bougent. Hein. Et même dans le taxi, vraiment, c'est vraiment horrible. Il y a vraiment un truc pour couper le son, mais c'est vraiment horrible. Et donc le New York Times a publié un papier sur ce sujet, le shoulder surfing, et c'est un peu l'article qui a inspiré cette chronique. Et donc, ils disent que tout ça, c'est un peu du vol. Bizarrement, je le voyais pas comme ça.
Ah, mais bizarrement.
Parce que ces captures d'écran mentales, j'ai pas le droit de les faire, surtout si je vous en parle en vous révélant ce que j'ai lu, vu, entendu. En France, on appelle ça une atteinte au droit de la vie privée. Ça, vous risquez pour ça un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Merde.
C'est con. Alors,
c'est trop beau pour être vrai.
Et surtout, qu'on soit clair, je ne veux pas seulement voir vaguement ce que vous faites ou savoir à quel jeu vous jouez. Je veux vraiment comprendre comment vous fonctionnez. Je veux lire vos textos, je veux lire vos mails. À quel point vous passez d'une appli à une autre, quelle appli vous préférez, quelle musique vous écoutez, comment vous écrivez vos textos, comment vous les réécrivez, où vous descendez, où vous allez ensuite. Arrêtez-moi s'il vous plaît. Ce que je veux en fait avec cet usage IRLO numérique que j'adore, c'est comprendre comment vous fonctionnez sur Internet et imaginer le reste sur la base du plus d'infos possible. Moi. Bref, en fait, je suis trop curieuse pour me soucier du respect absolu de votre vie privée, d'autant que généralement, même si j'ai appris Ligne 8 Opéra que Virginie, dans son groupe WhatsApp, les MK Girls, allait se faire faire un massage à l'Institut Nux du printemps. Je n'ai que des bouts de vie sur lesquels broder. Et donc, j'invente vos histoires. J'invente, mais j'apprends. Par exemple, je ne savais pas du tout que je pouvais jouer au basket sur NBA Live. Je ne sais pas si vous avez déjà joué.
Putain. Tout ça pour ça, quoi.
Mais en fait, il y a quand même. En plus, on voit les évolutions d'Internet. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, vous voyez que des gens jouaient à Candy Crush parce qu'il n'y avait pas de 4G dans le métro.
C'est vrai.
Vous voyez même des gens s'arrêter avant le métro pour télécharger des choses avant de rentrer.
Ça, c'est
vous
n'avez
jamais vu ça? C'est génial. Grave. Et la seule fois où je détourne le regard, c'est aussi à cette époque quand les gens mettaient tous Game of Thrones le lundi matin parce que là, je voulais pas me faire spoiler.
C'était le moment où tu ne leur sortais pas.
C'était la seule fois. Aussi, ça, ouais. Mais donc, après des semaines d'études précises et, disons-le, des années d'expérience, j'ai l'impression, en fait, de naviguer dans un réseau social de grande ampleur où il n'y a pas de mise en scène de soi. Celle qui nous fatigue, celle des concours de beat dont tu parlais, Daz. Mm-hmm. Là, je suis dans un réseau IRL de gens qui ne sont connectés que par le hasard de mes voyages en métro, de Ballard à Barbès, en passant par Champigny-sur-Marne, RERA, Forever.
Yeah.
Et du coup, je me défais des réseaux que je connais trop bien, de mon truc boring là de tout à l'heure. Je lis vraiment ce qui se passe dans vos vraies timelines, celles de la navigation sur votre smartphone, des conversations que vous avez incompréhensibles, de vos habitudes de jeu, de lecture, d'échange de travail, pour mieux faire évoluer mes habitudes à moi. Ouais, je découvre que vous naviguez beaucoup plus vite que moi. Je comprends pas tous ces gens qui killent des apps là pour se faire du bien. Enfin, je sais pas, il y a un truc genre le nombre de gens que j'ai vu faire ça, c'était hallucinant. Je disais, mais qu'est-ce que vous faites?
C'est
pourquoi
tellement satisfaisant, mais
des gens sous Android.
Ça n'amène à rien, quoi. Ça n'amène vraiment à rien, quoi. Enfin, je sais pas. Et du coup, vraiment, ça va très très vite. Et du coup, là, je me dis, mais je pourrais faire des discussions WhatsApp quand sont. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait avant. Vous le faites?
Non.
Alors, pourrais.
Par contre, c'est pas un truc du Moyen-Orient, ça.
Non, j'ai des amis qui font de plus en plus.
Je te jure, mon frère le fait.
En Turquie, ils font tout ça, les mecs. Hein.
J'ai des amis qui font de plus en plus aussi qu'en vocal. Donc, j'ai que des icônes play sur des discussions.
Des messages de 1 minute 13 que j'écouterai jamais.
Exactement. Quoi,
et puis, ils le font en se cachant un peu la bouche comme ça.
J'ai envie de lire la Bible sur une app qui est aussi belle qu'un réseau social. De commencer à lire le tome 3 de Harry Potter, comme ce jeune de 15 ans dont je vous parlais, de retourner sur Snapchat, parce que vous avez l'air beaucoup plus nombreux que ma bulle ne le laissait penser. Mm-hmm. J'ai plus aucun ami sur Snapchat, fibre peut-être.
Oui, non. 2 ou 3.
Je comprends nos comportements sur Internet. Je lis quelques-unes de vos conversations les plus intimes, celles que vous ne publiez pas sur les réseaux sociaux. Je défonce des pans entiers de votre vie privée, mais je ne fais qu'honorer le pacte de Studio 404. Notre podcast de société numérique.
Ah, bravo Mélissa, très très belle chronique de super stalkeuse, ou la stalkeuse masquée. Je ne sais pas quel est ton nom de scène, ton nom de nuit. On ne sait pas si c'est une super héroïne ou une super méchante en fait, d'une certaine manière.
Ah, elle démarre comme
c'est
une
super méchante.
C'est
la curiosité, les amis.
Ouais. Et ça tourne aux deux tiers, ça devient quasiment poétique. Oui. Bravo.
Très très belle chronique.
Ouais.
Et en plus, Mélissa, elle a défendu bec et ongle, hein, parce que
l'âme n'y croyait pas.
C'était pas gagné.
Je ne savais pas ce qu'on allait.
On fait une émission sur les usages. Il y a un usage. Ah non.
Un an d'emprisonnement quand même.
Mais oui. Je suis quand même admiratif par rapport à ta routine et même par rapport à ce que toi, Sylvain, tu faisais. Parce que moi, en fait, quand je fais ça, mais la personne se retourne en un quart de seconde parce qu'elle se dit
il va
me coller mon téléphone.
En gros,
c'est super dur parce que...
Le costume de Mélissa, elle a un costume parfait de super stalkeuse.
Ouais,
c'est le costume de la jeune fille normale.
Parce que moi, comme je fais de l'ombre, tu vois, d'un seul coup, le truc s'assombrit. Mais tiens, c'est chelou.
Il y a un visage en reflet, tu sais, comme ça.
Avec les deux yeux au-dessus de l'épaule.
C'est comme dans Indiana Jones quand tu vois les ombres qui tournent dans le zeppelin. Il se passe quelque chose, on retourne en Allemagne.
Non, ouais, en fait, j'essaye, mais je suis vraiment très, très, très... En fait, bizarrement, dès que je vois que c'est une conversation un peu perso, j'ai la même gêne que quand je tombe sur L'Amour est dans le Pré ou La Nouvelle Star, quand ils s'affichent à faire n'importe quoi, tu vois, je me sens mal pour eux, en fait.
C'est la pudeur de Das qui ressort.
C'est le cringe. Ouais, c'est un peu...
Comme dans l'étude allemande.
Sylvain, est-ce que... Enfin, oui, tu le fais, puisque Mélissa a décrit une belle séance de shoulder surfing dans un bus à Londres sur ce fameux dîner entre féministes sans alcool. Quel scandale.
Quel scandale.
Toi, tu kiffes un peu.
Je l'ai fait un peu pour l'exercice, pour apporter un peu de contenu à Mélissa.
Ouais, c'est un vrai team player.
Merci.
Mais ça m'est déjà arrivé de le faire dans le métro. J'aime bien, en fait... J'aime bien me dire que ça fait partie de mon métier aussi de regarder ce que font les gens sur leur téléphone parce que c'est un peu ce que je mets aux marques donc c'est un terrain
pratique.
D'études que j'aime bien regarder, mais j'ai l'habitude moi de voir que du Candy Crush par contre.
D'accord. Encore beaucoup de Candy Crush.
Même encore aujourd'hui, ou des Candy Crush like quoi.
Fibre, est-ce que tu shoulder surf dans la rue, dans le métro, dans les transports?
Alors, l'article m'avait tapé dans l'œil parce que, alors, je suis plutôt libéré sur plein de choses.
Oui.
Mais j'ai une grande peur, c'est d'être shoulder surfé.
D'accord.
Et pendant le Summer of Love, souvenez-vous cette chronique.
J'ai une grande peur, c'est d'être shoulder surfé. C'est ouais, une belle.
C'est-à-dire que tu vois, ça m'est arrivé. Par exemple, il faut imaginer la musique de l'inspecteur Gadget, tu vois. Donc je rentre dans le métro. j'ai reçu un nude sur Snap. Et tu sais, ça va durer que 10 secondes. Donc je bloque avec mon index, mais je peux pas le regarder dans le métro parce que les gens sont là. Alors je me mets dans un coin, tu vois, et je peux pas. Mais ça dure, tu vois.
Le mec, il est cramé à 25 morts, tu vois, il se coince contre les portes du métro comme ça.
Oui, c'est ça.
Avec une légère érection.
Oui. Non, mais en plus, oui. Je me suis mis contre les portes du métro, je me souviens, et je me suis dit, mais ça va être le reflet dans le noir, ils vont le voir dans la vitre et tout. Et j'ai dû attendre, et je pouvais pas, parce que si je lâchais le truc, peut-être quand tu laisses ton.
Oui,
ton
compteur passe.
Ouais, non, quand tu laisses. Enfin, je sais pas, il y avait une histoire de. Enfin, tu peux friser le truc à un moment, tu vois.
Comme dans les stories Instagram, tant que tu mets le doigt sur les mains, ça stoppe le coup.
Et donc. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai plutôt ce type de contenu, moi, dans le métro.
Nudes?
Ouais, excusez-moi, des nudes, du cybersex. Non. Des nudes ou du cybersex, ou effectivement, voilà, il va se passer ça, etc. Donc, du coup, effectivement. Ou alors, parce que sinon, j'écoute de la musique ou je lis, tu vois, les Game of Thrones, mais bon, tu vois, en fait. Et donc, effectivement, j'ai pris cette habitude d'avoir peur d'être shoulder surfé et je me planque, je suis vraiment dans les coins, voilà.
J'imagine le mec qui rentre, qui vise tous les angles morts, les tirs croisés, les trucs à la Jason Bourne.
Ça m'arrive aussi quand je suis chez un client en réunion et qu'il y a un de mes collègues qui est dans la même réunion et que je veux bitcher un peu, tu vois, genre sur Messenger en disant ouais. Ouais, lui il dit n'importe quoi. soit tu passes le téléphone sous la table,
ouais.
Soit tu baisses la luminosité à fond. Moi ça m'arrive souvent de mettre la luminosité à zéro pour être sûr que même moi je distingue à peine ce que j'écris, donc il y a personne qui verra, quoi. Je le fais assez souvent, ça.
Il y a des protections d'écran qui occultent
les angles
de vue latéraux, ouais.
Un autre point qui m'a extrêmement fait tilter pendant la chronique, c'était l'intimité que Mélissa prend des gens. C'est pas le contenu, c'est leur manière de gérer cette intimité. C'est leur manière de taper des textos, de faire les altabs. On voit tous des fois quand les gens, on le pousse un peu nerveux, qui est en train de flotter au-dessus d'une icône, parce qu'on voit que la personne hésite, de virer des apps, etc. Et je trouve que la partie du voyeurisme où je me reconnais dedans, c'est presque de voir ces gens-là et leur manière quasiment de manipuler leur téléphone ou des fois, nerveusement, on voit entre quelle application ils vont jongler nerveusement ou par réflexe, etc. etc.
Ouais, c'est presque les petites manies.
C'est presque plus intime que le contenu qu'on. C'est presque.
J'ai envie, moi, de faire un stage, en fait, parce que le contenu, je le regarde pas, mais effectivement, la façon dont les gens utilisent leur smartphone,
c'est hyper intéressant.
Et j'ai envie de lui dire, en faisant ça baisse l'eau de l'écran, t'auras plus besoin de lâcher ou de mettre ta deuxième main et de poser ton sac sur tes genoux.
Vous voyez pas ces fameux pouces qui, un peu nerveusement, cherchent une icône à cliquer. On voit des fois des pouces qui attendent.
Ouais. Ah ouais, non, c'est magnifique.
Tu peux activer le Face ID si tu veux.
Ah là là. Ça vous a. Daz, ouais, donc lui, ça le touche. Ça vous a déjà touché de voir des gens, en fait, et aussi leur manière de manipuler leur téléphone et de voir comment dans quel ordre ils lancent leurs applications, qu'est-ce qu'ils lancent nerveusement.
Il y a une frénésie des fois. Dès qu'en fait, parce que moi je suis un usager du RERD, dès qu'on sort du tunnel de Gare de Lyon,
c'est le moment où le réseau revient.
Ouais. Et là, les gens ils sont en train de refresh trois applis. J'ai dit, mais de toute façon, c'est la même connexion, donc celle-là ira pas plus vite que l'autre. Je veux dire, arrêtez ce que vous faites, c'est stupide.
Ouais, le refresh, c'est un vrai truc.
Daz, en fait, il shoulder judge.
je shoulder judge beaucoup quand même.
Il shoulder judge.
Par contre, parfois, il y a donc ces Parisiens qui sont dans le métro qui lisent un livre très intellectuel pour montrer qu'ils lisent des livres un peu intellectuels. Et là, le téléphone, c'est un petit peu l'inverse.
Ouais.
C'est-à-dire que souvent, on a un jeu hyper nul ou décevant, c'est-à-dire vraiment plus nul que Candy Crush. Je veux dire, vraiment un truc avec des aubergines en chinois. Tu vois, on se demande comment il a pu télécharger ça.
En chinois.
Ouais, voilà. Enfin, des matchs 3, mais avec des aubergines, tu vois. Et effectivement, c'est un peu ton petit territoire de honte, rêves. Tu vois. Non,
ça, Fibre, il a raison. Moi, j'ai vu, tu sais, le jeu où tu dois découvrir des mots, là, un genre de Boggle, mais fringué, genre des mots de 4 lettres, tu vois. Et je te jure, je facepalm, en fait.
Toto,
putain, mais tu l'as, limé, vas-y. T'as envie de le faire à la place du mec qui est là en train de faire. Mille, non. Mieux, ça, non. Miel, enfin, limé, putain, limé.
J'avoue.
C'est horrible.
C'est un shoulder call to action.
Bah, en fait, du coup, mais ça, tout le monde camarade, il shoulder quelque chose.
Ah, mais c'est hyper intéressant. Et depuis que je le fais, du coup, je le fais d'autant plus. Du coup, maintenant, vraiment, je cherche les gens.
Est-ce que tu le fais de manière plus consciente maintenant que tu t'es renseigné pour cette chronique et que tu as lu ces articles? Ou est-ce qu'avant, tu sentais que c'était un petit plaisir coupable dans ton coin et maintenant, tu dis, il y a un vrai truc qui se joue et du coup, je le fais de manière plus consciente?
Ah, maintenant, c'est une passion. Maintenant, vraiment, là, en venant, j'avais déjà écrit ma chronique, donc j'étais à côté d'une dame qui écrivait des textos, mais tu sais, ils apparaissaient en plus en énorme sur son écran, donc je voyais tout.
Mais ça, le porn pour elle.
Et en plus, le mec lui disait, c'était une dame qui avait genre 50 ans, et le mec qui lui écrivait lui disait, tu devrais effacer les messages au cas où tu perds ton téléphone. J'étais genre, oh putain, ça a l'air génial. J'étais à fond, quoi.
Quel message?
Alors qu'elle parlait de plantation et de robe et d'imprimé, j'ai pas trop. Vraiment, ça avait pas l'air fou jusqu'à ce message. J'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que t'as des archétypes de gens qui sont shoulder surfables? Genre les vieux. Les vieux, forcément, ils ont mis la police à 125%, tu vois.
Il y a les vieux, mais parfois les vieux, tu sais, ils ont ces trucs qui cachent les écrans là sur les côtés, comme ça. Donc,
les refermes
là, du coup, ça
la fameuse housse portefeuille.
Ouais, alors que tu vois, un bon iPhone 10 sans housse là, enfin sans rien. Tu vois, t'es bien, t'es tranquille quoi. Tu vois les choses qui se passent.
Et donc il y a des gens que tu préfères shoulder surfer encore une fois. Genre des gens de ton âge où tu dis ah cette personne est vraiment différente de moi, je vais voir ce qu'elle fait.
Ouais, elle est très jeune. Bah quand j'ai vu le jeune là qui lisait Harry Potter, je dis ah super un jeune.
Lire Harry Potter sur un iPhone 4, le mec GG. Hein.
Et les textos en plus ça c'était. Vraiment...
Peut-être qu'il le lit sur un matériel d'origine. C'est-à-dire quand le Harry Potter est sorti, tu vois.
Ouais.
Voilà. Alistair. Non je pense pas.
Oh, le steampunk.
Alors sur les livres, moi j'ai un truc marrant que je fais, c'est que je de la même manière que quand on lit un livre intéressant, on aime bien montrer la couverture dans le métro. On dit je suis en train de lire, regardez, vous êtes sur vos téléphones, moi j'ai un livre en papier. Et bien, quand on lit un livre sur son téléphone, on n'a pas de couverture. D'ailleurs, il y avait une agence de pub qui avait sorti des coques qui reprenaient des grandes couvertures de Shakespeare justement pour faire ce truc-là. C'est assez marrant.
Mais du coup, qu'ils ont fermé.
Du coup, quand tu lis un livre sur un téléphone, t'as quand même envie de montrer que t'es en train de lire. Donc moi, je me rends un petit peu shoulder surfable à ce moment-là.
Tu abaisses ton niveau de shoulder.
Et j'augmente un peu l'angle de mon téléphone. Tu vois, quand je suis debout, par exemple, dans le métro, je vais augmenter l'angle un peu comme ça, pour que les gens voient que je suis en train de lire un livre et que je suis pas en train de faire Facebook, tu vois.
Je le fais avec Spotify.
Je suis en train de lire un bouquin, voilà. Oui, pour montrer ce que t'écoutes aussi.
Carrément.
Grave.
D'ailleurs, c'est une feature que j'aimerais bien.
En fait, la chronique de Mélissa, elle est en train de. Les gens se découvrent.
Justement, j'appelle les auditeurs de Studio 404 et auditrices à nous envoyer des petites captures d'écran pour bien se faire poursuivre.
J'aimerais vraiment, par exemple, que Spotify propose un truc qui permette soit de partager ce que tu es en train d'écouter, dans le wagon, ou toi de te linker comme si c'était une radio.
Vous n'avez jamais essayé ce jeu qui est un peu drôle, notamment avec les iPhones, tu peux airdropper au hasard. Vous avez jamais essayé?
Ouais, mais airdrop quoi?
Attends, non, mais justement.
En Angleterre,
T'as des photos drôles, le truc, genre des gens qui se draguent. Alors, je me rappelle, c'était à 15 ans en Espagne, les gens, en fait, se connectaient en Bluetooth au hasard. Donc, dans des bars, les Bluetooth, c'est ce que c'était, ils envoyaient des messages en disant, je suis dans ce bar, si quelqu'un veut discuter avec moi, ils savaient pas avec qui ils parlaient. Et, apparemment, t'as des gens qui s'amusent à airdropper des images d'eux, mais drôles, ou des messages drôles.
Ah, c'est pas mal.
À tous les téléphones qui sont dans l'avion ou dans le train. C'est du shoulder exhibitionnisme.
C'est du forcing.
C'est du airdrop surfing. Dernière chose du coup, Mélissa. Tu as appris des nouvelles choses de la part des gens, en fait. Ouais. C'est ça que tu dis. T'apprends des nouvelles pratiques. En fait.
Je pensais être vraiment beaucoup plus surprise, mais comme t'as validé ce sujet il y a 3 jours, j'ai pas pu prendre tous les RER que je voulais. Mais j'ai quand même appris des choses sur ce que tu disais tout à l'heure, plutôt sur la façon dont ils passent d'un usage à un autre.
Ouais.
Plutôt que dans leur conversation elle-même, ou dans leurs usages, ou dans les applis qu'ils utilisent, ou des choses comme ça.
D'accord.
Est-ce que t'as vu des médias que tu connaissais pas? Genre, est-ce que t'as vu des mecs qui lisent Spoutnik ou Breitbart?
Non, c'était beaucoup des sites de foot, de score de foot.
Ah là là,
scoring.
C'était pas genre l'équipe, mais des trucs comme ça, genre les trucs de Paris. Enfin.
Parce que moi, il y a deux choses que j'aime bien dans ce truc du shoulder surfing sur les contenus. C'est le fait que c'est le meilleur moyen en fait de faire éclater ta bulle de filtre.
Bah, c'est ça.
Ouais. C'est comme.
Encore une fois, sauf si tu, parce qu'on en parlait justement avec Mélissa, j'avais peur qu'elle se retrouve que dans des métros du 10e arrondissement elle sorte pas de sa bulle.
Oui, c'est ça.
Et même à New York,
dans des grandes villes.
Franchement, il y avait plus de gens sur Instagram à New York qu'à Paris, quoi.
Ouais. Ouais. Et après, t'as le truc aussi que tu vois ce que les gens publient pas sur les réseaux sociaux. T'as dit ça dans ta chronique. Ouais. C'est ce qu'on appelle le dark web. Le deep web, c'est Tor et tout. Et le dark web, c'est tout ce qui est messagerie instantanée, en fait, qu'on ne pourra jamais indexer et qu'on ne peut pas lire.
C'est vrai.
Qu'une marque ne peut pas lire. Et c'est le seul moyen
de lire ces choses-là, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant.
Ah, donc là, t'es totalement illégal.
Préféré. Là, t'es dans le cœur de meule. Hein, ah ouais. Tu es dans le chuleto du
sud. Ah, mon cœur de meule, j'ai appris qu'une meuf allait se faire masser chez Nux, tu vois, pour l'instant. Et ce truc que j'ai vu tout à l'heure.
Oui, mais il y a tout ce que tu t'imagines après. Ouais. C'est un film qui s'appelle Paris. Est-ce que tu... Il y a Romain Duris qui joue un mec un peu... Un danseur qui va mourir du sida, comme ça. Et il est au dernier étage d'un immeuble et il a une place de marché en bas de chez lui. Et puis il se retourne vers, je sais plus qui, Louis Garrel, très certainement. Il lui dit, j'adore regarder les gens en bas, ils sont les héros des histoires que je m'invente.
C'est exactement voilà,
c'est
ça.
C'est au premier degré. Oui, c'est au premier degré.
Ah putain, bah oui, c'est un film français. Ah, c'est beau. Bah écoutez, on demandera aux auditeurs, en tout cas, déjà si Shoulder Surf, ce qu'ils préfèrent regarder quand ils Shoulder Surf, et de nous envoyer évidemment des petites captures, ou encore une fois, j'espère, quand ils croiseront Mélissa dans le métro, de se laisser faire. Allez, on attaque la troisième et dernière FAQ.
FAQ.
Alors, une question de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il est game culte, puisqu'il s'appelle Mary Les Fous. Sur Twitter, le fameux Mary les Fous. Il nous demande un retour des chroniqueurs qui ont quitté Facebook. Avantages et inconvénients. Prévoyez-vous la mort du réseau et si oui, pour quand? Prédiction de Fibre Tigre si possible, entre parenthèses. Donc des demandes très précises de la part de Mary les Fous.
Des kinks.
Alors, Fibre a quitté Facebook, j'ai quitté Facebook. Alors on parle pas du groupe Facebook, on parle du réseau social parce qu'évidemment on est sur WhatsApp ou Instagram.
Mais vous avez supprimé votre compte ou vous avez désinstallé l'app?
J'ai désactivé mon compte. J'ai viré l'app d'abord et ensuite j'ai viré Messenger, Facebook et ensuite j'ai désactivé mon compte. Et toi, Fibre? Okay.
J'ai consciencieusement supprimé mon compte il y a trois ans maintenant.
Après la chronique de Pénélope Bagieu qui était venue nous en parler ou pas?
Non. Bien après, au moins trois ans après.
D'accord.
Parce que ça fait longtemps qu'on est là, nous. Et donc, j'ai quand même fait une sauvegarde complète avant de quitter, au cas où, parce que j'avais quand même beaucoup produit sur Facebook. Mais ouais, j'ai complètement supprimé Facebook de ma vie.
Alors avant qu'on demande à tes trois petits camarades qui eux sont encore sur Facebook, quels sont tes principaux avantages et inconvénients?
Avantage énorme, je gagne un temps fou dans ma vie. Parce que Facebook, c'était vraiment une perte de temps, mais énorme. Également sur mon Facebook, je l'avais mal géré parce que j'avais ma vie perso, ma vie pro en même temps.
Et ça c'est tout toi ça.
Ouais, mais là c'était en plein Summer of Love, c'était compliqué. Donc ça tombait au bon moment et c'était.
Summer of Love. Non, le fameux.
Il y avait Summer of Love, mais souvenez-vous que le Summer of Love s'est terminé par l'affaire HP Spectre, tu vois. Donc j'étais vraiment dans une période très trouble de ma vie, tu vois.
Pense que le Mélissa, ça s'est fini sur l'affaire stalking Spotify. Donc
dans le grand livre d'internet, on a appelé ça les années fibres.
C'est ça. Donc du coup, j'ai dit oulala, shitstorm vraiment pour le coup incoming. Donc j'ai arrêté. Et j'ai gagné beaucoup de temps. Le seul problème, pendant un an, vraiment, j'étais invité à zéro anniversaire. Okay. Les gens pensaient que j'étais... Donc voilà. Maintenant, par exemple, quand Sylvain fait quelque chose, il dit « Ah oui, il faut aussi que je prévienne les gens qui ne sont pas sur Facebook comme Fibre. »
C'est vrai qu'une ou deux fois, on t'a oublié un anniversaire, ouais, je me rappelle, il y a quelques années.
En plus, après, en mode « Putain, t'es pas venu, Fibre, t'es seul. » Mais elle finit à quoi? Et voilà. Et
ouais, t'es pas venu à mon anniversaire, Fibre.
C'est vrai, mais j'étais à une heure de TGV.
Il était au courant.
Il a participé.
Du coup, les trois autres compères, vous êtes toujours sur Facebook. On a tous contemplé de près ou de loin un moment de dire « Ah, fais chier, je me casse ». Ouais. Qu'est-ce qui vous retient, à part me dire les events?
Moi, je suis toujours sur Facebook. Par contre, c'est vrai que j'ouvre très rarement l'app. Ouais. Et je pense faire un move qui est proche du vôtre. C'est-à-dire que je vais pas quitter le réseau. Par contre, j'ai envie de virer tout. Ce qui est photo, perso, machin, etc. Ouais. Juste garder le profil, en fait, et virer tout le reste. Voilà.
Donc garder juste pour le truc utilitaire des groupes Facebook utiles. Ou
exactement. Et je pense que, en fait, Fibre, tu disais tu perdais trop de temps, donc tu as gagné un temps fou.
Ouais.
Mais je pense que le Facebook de cette période-là n'était pas pareil que celui d'aujourd'hui.
Parce que là, il se passe que dalle.
Il se passe rien sur Facebook. Ouais. Il se passe que dalle.
Bah, c'est des vieux, quoi.
Moi, je ping juste le réseau pour prendre des nouvelles de ma famille débile, en fait, qui poste des trucs de droite. Voilà.
Je suis content que ta famille prise, parce que ça détrigger un peu du monde, t'as plus trigger depuis le début de cette émission.
J'avoue que Facebook est bleu comme la droite. Hein.
Non, mais moi j'ai des oncles parmi les plus cons du réseau. Attention. Attention.
Le mec, respect dire, pour ta dire, famille.
Les oncles, ils ont une certification. Ils ont des fils de la
comédie. J'ai une grande famille, donc il y a des.
Non, mais n'insiste pas, on a compris.
Une partie qui est bien et une partie qui est débile. Et je l'adore, cette partie-là, moi.
Tu l'adores parce que tu la juges.
Je la shoulder surf, je la shoulder juge.
T'as préféré un Judge Dredd, un Judge Daz, tu vois, un beau Lotoshop. Sylvain, du coup.
Moi, j'ai désinstallé l'app sur mon téléphone.
Oui.
J'utilise toujours Messenger.
Oui.
Parce que c'est comme ça que je converse avec les gens. Et quand même, je vais assez souvent sur la web app régulièrement parce
Quelle
que. Ouais, c'est galère, mais au moins, j'ai pas l'app relou. Et j'y vais de temps en temps, je l'ouvre pas machinalement. J'y vais quand je sais que il y a un contenu ou je dois poster quelque chose ou je dois relayer un message ou je consulte mes notifs. Mais du coup maintenant à chaque fois que je me connecte j'ai genre 53 notifs quoi.
Ouais.
Je passe vite fait en revue, il y a rien d'intéressant.
Et vous recevez encore une notif hyper agressive de Facebook genre ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de vous. Ah, cette personne a posté 3 statuts, vous n'avez liké 0, enfin des trucs super.
Je me rends compte que
j'ai 0 notif. J'ai 0 notif alors que j'ai rien réglé.
C'est ultra violent Facebook là-dessus.
C'est horrible.
Les notifs iPhone.
Mélissa pour finir. Allez Mélissa pour finir.
J'ai la flemme. Du coup, j'y vais pas. Donc j'ai effectivement 53 notifs, mais en plus, je me sers même pas de Messenger.
C'est ta nouvelle banque, en fait. T'as trop la flemme de changer plus qu'autre chose.
Alors, ma banque a remis à jour son app, là. Je suis un peu...
T'as désinstallé des trucs de Facebook ou t'as tout dans le téléphone encore?
Non, parce que j'ai un relativement nouvel iPhone qui a de la place. Donc, je m'en fous d'avoir des apps en trop. Donc, j'ai rien désinstallé, mais j'y vais vraiment jamais. Et du coup, Facebook m'envoie des mails, genre, vous n'avez pas lu le commentaire de Machinette sur le statut de Machinette?
L'enfer.
À noter quand même la petite animation clochette. Elle est belle, hein. L'animation clochette de Facebook, tu vois, elle est en couleur et après elle passe en bleu et blanc.
Dazzy, oh, c'est jugé le design.
Ah, c'est beau.
Bon, ben voilà, en tout cas, mon cher Mireille Fou, tu as un peu le retour de chacun de nous. C'est où on l'a quitté complètement, où on a minimisé son usage. Allez, on attaque tout de suite la toute dernière chronique et Fibre a commencé à contracter les mâchoires. Il est parti.
Sujet numéro 4.
Dans les safe space, tout le monde vous entendra crier et c'est super.
Le safe space est-il le futur du réseau social?
Ah, vaste question.
Alors, safe space, on ne sait pas trop ce que c'est, je vais quand même définir ce que c'est. Notamment, IRL, qu'est-ce que c'est le safe space? Donc, c'est un espace physique qui n'est pas ouvert à tous. Alors, non seulement il n'est pas ouvert à tous, mais il est même réservé uniquement à certains. Un peu un club privé, en quelque sorte. C'est un lieu dans lequel on peut s'exprimer en toute liberté, sans, et là je regarde Daz, sans aucun jugement, ni agression.
Ce que tu crois.
Pas forcément de débat. C'est parfois le seul endroit où on peut se sentir bien. C'est parfois un outil politique. On peut, tiens, allons dans ce safe space et parlons d'un sujet sans que des trolls, des opposants, viennent écraser votre pensée. Et je vous avoue que moi, je suis pas très à l'aise hein, pour en parler parce que je suis justement une de ces personnes qui écrasent les autres dans les débats. Et à 404, notamment avec la mauvaise foi, on est plutôt l'inverse d'un safe space, c'est plutôt l'open bar café du commerce. La question de la légitimité, effectivement, me pose un petit peu problème. Mais bon, puisque je suis moi, hein, et puisqu'on est à 404, je vais essayer de mener cette chronique à son terme. Et j'aimerais qu'on considère cette chronique un peu comme un safe space, un espace protégé, et qu'on, à la fois... Nous, entre nous, eh ben on agisse avec bienveillance.
Voilà. Il a fait que regarder Daz en disant ça.
Voilà. Un peu comme dans une certaine variante de Uno, pratiquée par les Calitos en échange, voilà, avec bienveillance, politesse et vouvoiement. Il y a d'ailleurs un certain absolu dans la bienveillance du safe space. Dans sa définition stricte, une mauvaise attitude entraîne l'exclusion, puisque c'est tout le concept du safe space qui est automatiquement détruit si quelqu'un se met à critiquer, à agir, à rompre une règle, même de façon minime. C'est parfois, et c'est même souvent, un espace physique avec des éléments rassurants, comme par exemple des images apaisantes. Ce concept existe depuis environ 1960. Il a repris de la vigueur au milieu des années 2000, quand les réseaux sociaux sont apparus. Le safe space physique, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont des critiques fortes contre les safe space physiques. Je vais en parler parce que ça reviendra ensuite quand on va parler des safe space virtuels. Donc les critiques... c'est la première, c'est bah écoutez, safe space, c'est contre la liberté d'expression finalement dans le fond, puisque vous débattez mais vous ne supportez pas la contradiction. La deuxième critique, c'est bah vous êtes dans votre espace protégé, donc dont vous êtes typiquement dans une bulle filtrante qu'on a dénoncée dans nos chroniques suite à l'élection de Trump. D'ailleurs, on est coupé du reste du monde. Et la troisième critique, qui est surtout avancée par l'extrême droite, c'est que le safe space, ça infantilise.
D'accord.
Voilà. Donc quand on regarde Internet, on passe au monde virtuel, Internet c'est tout sauf un safe space puisque fondamentalement il a été créé pour que tout le monde puisse s'exprimer librement. Mais les safe spaces sont apparus au bout d'un moment et je vais expliquer un petit peu chronologiquement la création. Je suis pas un universitaire donc ça sera bref quand même, mais en gros comment ça s'est passé? D'abord, quand on a eu besoin d'être relativement bienveillant sur Internet, il y a eu tout simplement sur les forums des règles, la netiquette, fameuse règle qui disait en gros les gars soyez cool. Hein. Et comme il y avait quand même des gars qui étaient un peu énervés, on a commencé à créer non pas des safe spaces mais des anti-safe spaces. C'est-à-dire on a dit ok, vous voulez vous engueuler, vous allez là. Et on a écrit donc les défouloirs. Je pense par exemple au forum Game Cult qui est très modéré. Mais il y a un endroit qui s'appelle Geiger où on peut se foutre sur la gueule de toute la façon et de s'engueuler hyper agressive. Jeuxvideo.com, c'est un peu un fight club sur le forum 15-18, par exemple. Voilà. Donc il y a des anti-safe space qui ont été créés, mais pas de safe space à cette époque-là. Et quand les réseaux sociaux massivement ont transformé complètement l'Internet, et ben tout d'un coup, attirés par l'odeur du sang, les populations de ces anti-safe space sont débarquées en mode sans limite sur Facebook. Facebook, c'est le The Purge de l'opinion politique. Tout ce que tu oses pas dire à tes collègues de bureau, bah tout d'un coup, tu pouvais le claironner dans un commentaire sexiste, raciste, mais bon, c'est pour rigoler, c'est juste Facebook, juste Internet.
Un gros bisou au tonton de Daz.
Voilà. Et la politique des réseaux sociaux concernant, alors je pensais à Twitter, les contenus offensants, eh ben c'est comme le nouvel épisode de California. Des promesses.
Et t'en prends plein les gueules.
Et beaucoup d'espoir déçu.
Ça tire à balle, c'est
réel.
Mais
les réseaux sociaux sont toxiques. Ils font du mal. On est dans le mal. Alors la solution, ça a été de recréer les espaces qui étaient IRL, mais virtuellement. On quitte le public et on va au privé. Donc comment ça? Le plus simple, et aujourd'hui la solution la plus utilisée, c'est de créer des groupes Facebook privés. Donc ces groupes privés, on y rentre par invitation ou cooptation. Mmh. Le safe space numérique, il est rigoureux. Il obéit aux mêmes lois qu'IRL. Donc, une faute était exclue.
D'accord. Voilà.
On doit être dans la protection, la bienveillance. Et c'est le paradoxe, c'est-à-dire que tout Internet veut à tout prix vous attirer vers vous dans ses filets, avec du SEO, avec la population la plus grosse possible. Et là, le safe space, au contraire, exclut. C'est-à-dire, je veux avoir juste l'essentiel, juste les personnes qui en ont besoin.
D'accord.
Mais il n'y a pas que Facebook, d'ailleurs, qui fonctionne. Et d'ailleurs, pour illustrer ce propos, j'ai une question que je m'adresse à vous, chroniqueurs, et à vous, auditeurs. Et vous, est-ce que vous êtes dans un safe space numérique? A priori, vous allez dire non. Et en fait, moi, je parie que oui. Par exemple, nous, à 404, on a un Slack pour le travailler. Sans le déclarer officiellement, c'est devenu un safe space.
C'est une plateforme de discussion.
Voilà, Slack, c'est une plateforme de discussion où on rentre avec une invitation formelle. Et il n'y a pas un mot de passe, mais quasiment. C'est-à-dire, si on ne vous a pas invité, vous ne pouvez pas venir chez nous. Ouais. Effectivement, sur Slack, on a un channel, je ne vous dirai pas le nom, où on parle de nos aventures amoureuses. On a un channel, je ne vous dirai pas le nom, où on parle des autres podcasts. Et on dit effectivement des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre du privé, qui sont publiques, mais on n'aimerait pas qu'elles arrivent sur les réseaux sociaux.
Voilà. D'accord.
Donc, effectivement, comme la parole, elle est libre, on est dans un safe space qui nous appartient à nous. Moi, par exemple, j'ai, à titre professionnel, par cooptation, et vraiment une cooptation compliquée, limite franc-maçonnique, moi je suis rentré dans un groupe privé de développeurs indés de jeux vidéo, qui est vraiment un safe space idéologique, créatif, professionnel. On peut parler de nos malheurs, nos relations avec les journalistes, c'est un peu la même chose d'ailleurs, et de nos doutes dans un milieu vraiment très difficile. La bienveillance règne en maître, et attention, notez bien, la capacité à la bienveillance de chacun, c'est un critère d'entrée.
D'accord.
C'est-à-dire, si ce mec, il est brillant, mais il a une grande gueule et il va nous rentrer dedans, il n'est pas là. Tu vois.
D'accord.
On n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, Qualité, où est-ce qu'on retrouve le gros de notre communauté? Il n'est pas sur Facebook, il n'est pas sur le forum, il est sur Discord.
Ouais.
Et Discord, c'est encore un lieu comme Slack où on ne rentre que par invitation. Et si vous générez une invitation Discord, parfois, elle ne dure qu'un jour.
Ouais.
Donc, c'est vraiment super select. Et vous ne trouvez pas ça étrange que tout d'un coup, alors que Facebook, Twitter, Insta, ils s'épanouissent, on revient sur du Slack, sur Discord, c'est-à-dire on revient sur la fragmentation d'Internet. C'est des IRC à l'ancienne, difficiles à trouver. On a été poussé par la violence que tout le monde subit, parfois donne en retour, en réaction. On a été poussé vers ces réseaux sociaux privés où la parole ne vous détruira pas. Ne détruira pas ni votre vie, ni rien. Aujourd'hui, sur Twitter, un tweet de travers et votre vie est détruite.
Cette histoire de médecin qui se lave pas les mains, ça peut.
Ça, c'est pas ça.
Ça laisse des traces.
Non, mais c'est arrivé. On est d'accord qu'il y a exemples concrets, je vais pas les citer, parce qu'ils ont déjà assez souffert, de gens, ils ont fait un tweet, leur vie a été terminée.
Pendant 24 heures, ouais, au moins.
Non.
Si.
On en reparlera, et okay. S'il y a besoin, on donnera des exemples off. Donc nous sommes nous sommes encore dans la pleine tempête de la découverte d'une violence sans limite sur les réseaux sociaux. Nous sommes réfugiés dans ces îlots isolés pour reprendre notre souffle. Quelle est la prochaine étape? Insta et Snap ont peut-être une idée. À vrai dire, Evan Spiegel, le boss de Snap, donc Snapchat, a déclaré dans un interview Wall Street Journal en décembre dernier que tout le design de l'app irait vers une séparation du professionnel, donc les pubs, les channels mainstream, et du personnel, parce qu'il veut, je cite, « faire prospérer la culture du safe space ».
C'est fort.
Le modèle dominant de réseau social est aujourd'hui les stories. Je dis, donc, c'est le truc qui marche le mieux. On peut pas le dire, c'est en plein épanouissement. Je dirais en plus, malheureusement pour moi, les stories sur Insta, parce que j'avais parié l'inverse. Et effectivement, en fait, Insta crée une asymétrie qui va créer naturellement un safe space. J'explique. Je publie une story dans laquelle je dis, j'ai pas le moral. Personne ne sait si c'est une story visualisée par 1 million de personnes ou une seule personne. Mais la personne, il la reçoit qu'à lui. Il n'y a que lui qui le reçoit. Et déjà, un safe space commence à se créer. Pas de quantification. La personne voit votre story et elle peut répondre. Elle vous répond personnellement. Et là, il y a un dialogue qui s'installe entre juste vous et lui, sans quantification. Vous êtes dans votre bulle.
Sans que personne ne puisse voir ou se joindre.
Cette bulle peut éclater, donc disparaître à tout moment. Mais tant qu'elle est là, entretenue, elle peut durer. Et vous avez créé votre petit safe space. Et d'ailleurs, toujours dans le système de la bienveillance, dans les stories Insta, vous avez 8 réactions rapides, genre yeux avec des cœurs, flammes, tout ça. Et ce sont que quasiment des réactions positives, compassionnelles, bienveillantes, apaisantes, parce qu'on veut créer ce système de bienveillance encouragée. Donc, et j'ajouterais, alors c'est discutable, que beaucoup de stories, en tout cas les miennes, c'est une personne qui vous parle face caméra,
oui.
Avec son visage en gros plan, donc on a l'impression vraiment qu'il nous parle à nous, voilà, que ça se passe. Donc il y a une intimité. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que là, on a eu cette nécessité de création de réseau social, de safe space? On le constate qu'il se crée naturellement. Et est-ce que le réseau ultime vers lequel on va, ce serait un réseau justement qui respectera totalement ses codes de safe space et adieu la liberté d'expression finalement.
Ah, on peut applaudir Fibre. Ouais. Fibre qui est en train de quitter le scoring petit à petit, il ne s'en rend pas compte. Fibre, donc tu nous parles des safe space qui sont en train de s'épanouir. Et effectivement, dans leur épanouissement numérique qui diffère un petit peu de l'épanouissement de leur définition réelle des années 60, mais à ce côté limitation en nombre d'intervenants, dialogue plus construit et plus dans la bienveillance, exclusivité comme un club,
oui, sur des critères, c'est-à-dire par exemple, enfin très simplement, on accepte que les femmes.
Oui.
Et ça, d'ailleurs, le problème de la non-mixité, c'est, ça pose problème à d'autres personnes qui disent, mais pourquoi vous êtes non mix, etc. Ouais. Voilà.
Aux hommes, principalement. Ouais, aux
hommes. J'imagine.
Et donc, on est en train de, c'est quasiment, je dis pas une suite logique, mais c'est une sorte de fork de la chronique de Daz qui disait, est-ce qu'on est sur la fin du scoring, etc. Parce que là, tu disais, on a été pendant des années sur des réseaux ou des sites qui essaient d'attirer de plus en plus de gens, de connecter 1 milliard de personnes, et ces personnes essayaient d'avoir leur message le plus diffusé possible avec le plus gros score et en fait d'intervenir dans le plus de discussions possible. Et là, on se retrouve avec des gens qui disent, je veux juste être avec mes 20 personnes sur mon WhatsApp privé familial ou sur mon Slack entre potes ou discuter qu'avec, en one-on-one avec une personne qui réagit à ma story. Et j'ai l'impression que personne ne se plaint que sur la story, on puisse pas discuter à 80 et que tous les commentaires d'une story soient pas mis en commun. Est-ce que vous y retrouvez un petit peu dans cette tendance que Fibre nous a dessinée dans sa chronique, Sylvain?
Je m'y retrouve totalement. Je pense que les gros réseaux sociaux vont dans ce sens-là.
Oui.
Pour faire écho à la FAQ de tout à l'heure, il y a énormément de gens qui restent sur Facebook seulement pour les groupes privés.
Oui, qui sont des formes de safe space, d'une certaine manière.
Qui sont à mon avis très gros. On peut pas avoir les chiffres d'ailleurs, mais à mon avis c'est très très gros chez Facebook. Et Facebook met l'emphase sur la communauté de plus en plus. Ils ont baissé le reach pour les marques, pour les médias. Ils font en sorte qu'on voit les messages que de nos proches. Je pense que les groupes deviennent un énorme truc pour Facebook et qu'ils vont le développer à fond.
Donc tout le côté on va connecter l'humanité entière ne marche plus. C'est plutôt on va reconnecter des micro communautés entre elles dans safe space.
En sociographie, l'étude de la manière dont les gens interagissent ensemble, les groupes interagissent ensemble.
Oui.
Il y a une modélisation qui s'appelle celle des petites boîtes, little boxes, qui reprend un petit peu le fonctionnement de la civilisation il y a plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'on est des petits villages où on se connaît tous. Et ces petits villages sont reliés par des routes, mais c'est pas si simple d'aller visiter un autre village. Donc on peut se parler entre villages, mais on est quand même bien juste nous ensemble.
D'accord, très bien.
Par contre, je suis pas d'accord sur les stories, moi. Je pense pas que ce soit un safe space, et je pense pas que ça encourage les gens à l'utiliser ainsi, parce que notamment avec l'outil posez-moi des questions là, il y a pas mal de meufs qui partagent des captures d'écran des questions qu'on leur pose. Et c'est tout sauf un safe space. Vraiment,
oui, sur cette utilisation précise.
Ouais, mais même du coup, ça ils le partagent, mais je pense que quand elles font des stories, elles doivent recevoir des commentaires sur leur story hyper salaces, hyper sexistes.
Oui, mais comme dirait Fibre, là son début, ils sont pas des safe space que tu peux éclater immédiatement en ne répondant pas, en n'autorisant pas, par exemple. C'est quand, je pense que Fibre, tu disais que plutôt quand la discussion s'engage, t'es en one on one avec la personne directe.
Oui, voilà ça. Ce qui n'arrive pas sur Twitter, par exemple, parce que si quelqu'un répond à mon tweet et que je lui réponds et qu'une discussion s'engage. Enfin, généralement,
on peut rentrer dedans.
C'est très rare de slider en DM.
Ouais, c'est ça, ça se fait pas trop.
Ouais.
Et dernier truc, vas-y, il va y avoir des stories sur LinkedIn, j'ai hâte.
Ouais. Alors ça, ça aurait été tellement chaud.
J'ai super hâte.
Le safe open space, parce que c'est évident, c'est LinkedIn.
Tellement cool.
Daz, qu'as-tu pensé de cette chronique et de cette notion de revenir en arrière?
Comment dire? Non, la chronique est très intéressante. La posture de Fibre, j'avais l'impression de voir. Enfin, c'est comme si t'avais forcé Henri de Léquin à visiter Bamako, tu vois. C'est vraiment le. Tu sais, il s'est mis du bulpac autour de lui, du polystyrène, il s'est vraiment bien protégé. Au cas où, attention, je vais pas commettre d'impair, il faut que je marche sur les nénuphars, sinon je vais me péter la gueule. C'est assez marrant comme exercice, à voir en tout cas. Je partage évidemment pas complètement ce qu'il dit, mais son point de vue sur les stories est intéressant. Ouais. Je trouve, moi, particulièrement, que Snapchat est un des réseaux les plus violents que j'ai pu voir.
Ouais.
Parce qu'en fait, les stories... tu ne les vois vraiment en première intention que si t'es abonné, mais en fait tout le monde les screen et les partage. On a déjà des gars qui se retrouvent complètement via une vidéo Snapchat partagée sur Twitter, qui sont donc la risée de l'univers entier.
Et sur YouTube. Et
sur
mais,
voilà.
Mais alors, est-ce que du coup, justement, parce que on parle de safe space, pas que parce que ça limite l'accès normalement à une discussion d'un contenu, c'est aussi l'état d'esprit de cette bienveillance qui, j'ai l'impression, plus lié à Instagram qu'à Snapchat,
ouais,
par exemple.
Complètement. Pour moi, Snapchat c'est réseau avant tout d'adolescents et
qui est comme Twitter, qui a l'air plus violent.
Ils sont vachement durs, ouais. Après, je partage pas sur Twitter. Je sais que Fibre est un peu le Niki Lauda de Twitter et de Facebook. Et c'est un grand brûlé, donc il est un peu traumatisé. Moi, je pense qu'il faut redescendre un petit peu. Il y a personne qui a eu sa vie complètement ruinée par Twitter, sauf s'il a pris un flingue pour tuer quelqu'un.
Tu vois la meuf qui est partie en avion,
ouais,
je pensais.
Qui a fait le tweet sur le
Ah,
celle-là, je la connais pas. Tu vois, je suis sur Twitter toute la journée, je la connais pas. C'est quoi ça?
Vas-y, raconte.
Elle a fait un tweet sur le c'est quoi le tweet? Hyper raciste.
Elle partait en Afrique. Elle a dit, je pars en Afrique, j'arrive dans 12 heures, j'espère que j'attraperai pas Sida, lol.
Quand son avion a atterri, la meuf, elle a vu le shitstorm arriver parce qu'elle avait pas de connexion.
Ah non, mais alors attendez.
Et la meuf a été virée pendant qu'elle était dans l'avion, quoi.
Attendez. Donc là, c'est une meuf qui a.
Des plus grosses histoires d'internet.
Ouais, ok. Donc c'est une meuf qui a tweeté un truc ouvertement raciste.
Oui.
Et qui s'est pris un retour de manuel.
Ouais.
Oui.
Alors, c'est génial.
Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que
ça ruine des vies, quoi, tu vois.
Non, mais ça ruine des vies quand tu fais de la merde. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas. En fait, Twitter va pas ruiner ta vie si t'as dit à un moment donné un truc qui était pas forcément super cool, mais pas non plus ouvertement raciste.
Ouais, Navo s'est fait menacer de mort.
Ouais, mais Navo, c'est un troll et on
le
sait.
Mais le cyberharcèlement,
on a eu de dire
Zapet qui a fait un procès, cyberharcèlement. On a eu des grandes chroniques sur les call-outs à l'époque du harcèlement.
Ouais, mais encore une fois,
tu peux te faire ruiner la vie quand ton contenu est en public.
Ouais, je
justement,
sais pas,
le fait qu'on sorte des énormités sur le Slack, par exemple, c'est parce qu'il y a
ça
aussi cette bienveillance. Et cette...
Non, je suis d'accord avec ça, mais ça, c'est un peu c'est le mode de fonctionnement normal. Tu dis des trucs par texto à des potes que tu dirais
pas
à d'autres potes.
Mais justement, c'est ça le retour du safe space.
D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Mehdi Mekla, qui s'est fait allumer parce que, en 2010, Twitter était un safe space, puisqu'il y avait que nous, en fait, qu'on se connaissait tous.
Parce que aussi, son compte, il s'appelait Adolphe et qu'il était un petit peu vénère, quand même.
Et on pouvait faire des trucs ironiques. Oui, après.
Ah, des trucs ironiques, le LOL et la Ligue.
En tout cas, c'est ça qui défend c'est ça qui l'annonce.
Oui, ce que je veux dire, c'est juste qu'on a tendance à taxer de shitstorm. Tout et n'importe quoi, tu vois, et voilà, tu dis un truc.
Mais le shitstorm,
tu te prends 20 replays qui disent que t'es qu'un sale con, c'est pas une shitstorm.
Oui, non, arrêter, ça, c'est
quoi.
Pas un shitstorm.
Calmez-vous.
Mais Mélissa, qu'est-ce que tu as pensé de la chronique de Fibre et de ce recarapatage entre nous dans des espaces réduits, des espaces protégés, des espaces bienveillants? C'est un peu les trois caractéristiques, j'ai l'impression.
Mais je trouve ça encore assez nouveau parce que je suis allée dans un safe space, personne n'arrive à le dire, la semaine dernière, IRL. Vu que je suis allée à un festival de podcast où il n'y avait que des femmes.
D'accord.
Et en fait, ça m'a semblé complètement nouveau. J'étais complètement galvanisée, quoi. J'avais jamais vécu ça. D'être dans la même pièce que 500 femmes. Jamais.
D'accord.
De ma vie. Et en fait, c'était ouf.
C'est un truc
qui
s'est
fait. Et du coup, je pense que ça crée vraiment un sentiment, une émotion à la fois de puissance et de nouveauté qui est ouf.
D'accord.
Et du coup, c'est normal que tous les réseaux sociaux se disent, il nous faut ce truc, c'est trop bien. Tu vois. Enfin, après, tu le vis pas aussi. Je pense
aussi
intensément
fortement.
Sur Internet.
Mais tu pourrais retrouver les qualités que tu as vécues là, de manière, comme tu dis, plus light, mais plus accessible aussi au jour le jour sur.
Ouais. Et de fait, je suis sur Facebook parce qu'en fait, il y a des groupes que j'aime bien et que je vais sur trois groupes et que j'adore.
Oui, d'accord. Donc là, tu es plutôt d'accord avec Fibre. Alors,
être plutôt d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est cool d'avoir cette situation où on est full public et c'est le bordel et c'est l'open bar. Et cette situation où on est dans des clubs privés bienveillants, où on se protège les uns les autres, on s'écoute les uns les autres. Mais est-ce que quand Fibre dit que peut-être que l'avenir des réseaux sociaux, c'est plus ça l'avenir, là on parle vraiment du modèle dominant. Et tout à l'heure, on parlait sur d'autres chroniques, le fait que par exemple, les stories prenaient le pas sur le feed dans Instagram, alors que les stories sont des choses qui sont beaucoup plus privées et beaucoup plus, enfin, dans la communication que le feed. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prédiction de Fibre? Attention, c'est une hashtag prédiction Fibre.
Oula.
Il n'y aura jamais que des safe space ou que des...
Non, mais le modèle dominant, on va dire. Est-ce que le safe space pourrait prendre le pas et on se retrouverait avec tous les forums un peu d'époque, thématiques, etc. Comme disait Sylvain, avec des little boxes.
Ça va s'éparpiller, en fait.
Ouais, ça va rééclater.
Donc, les forums sont pas un safe space dans le sens où il suffit que quelqu'un tombe sur un post, soit pas d'accord et le publie. Sur un autre réseau.
De forum privé, pardon.
D'accord, de groupe fermé, vraiment. Ouais,
de groupe fermé, effectivement.
Oui. Après, t'as aussi le fait que, un forum, même s'il est public, il est pas si simple à trouver, il est pas si bien indexé, il faut connaître l'URL.
En fait, t'as pas.
Mais c'est pas un safe space non plus.
Ouais, voilà. Quand tu postes sur un forum, t'as pas l'assurance.
Que tu vas pas te faire.
Que ça va pas leaker, ouais. Tu vois. Alors qu'un safe space avec des gens que tu connais, ou en tout cas avec qui tu partages un même état d'esprit, normalement.
Il y a un pacte.
Voilà, le Slack, on l'a dit nulle part. Attention, tout ce qu'on dit sur Slack ne doit pas sortir d'ici. En fait, on le précise même pas parce que c'est évident.
Je crois que quand une phrase sur deux, on dit heureusement que ça sort pas sur Twitter. Je pense qu'en fait, on se fait un pacte.
Je pense qu'il y a des rageux qui screenent tout et qui vont nous le ressortir quand on sera dans des posts.
Une fois, on a révélé un truc que Sylvain nous avait dit et je crois que ça, il y a eu beaucoup de sueur dans le Slack.
Ah oui,
ça marche. Je me souviens.
C'est vrai. Comme quoi. Et alors dernière chose, dernier point sur ce débat. Tu parlais aussi. J'ai l'impression que ton bémol, c'était est-ce qu'on remet quand même d'une certaine manière la liberté d'expression en cause, puisque on sait que un safe space, si tu ne respectes pas les règles qui sont, on n'interrompt pas la personne qui s'exprime, on est bienveillant, on n'est pas là pour débattre avec elle, mais on est là juste pour accompagner son expression, etc. On peut se faire dégager à ce moment-là. J'ai senti que c'est quelque chose qui te pinçait un peu quand même.
Non, moi j'ai toujours été comme un con un peu, hyper partisan de la liberté d'expression, mais aujourd'hui le maître du monde Trump est quelqu'un qui a montré que la liberté d'expression c'était quelque chose d'affreux quand elle était mal employée. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a un gros bordel politique, humain sur toute la planète, parce qu'il y a des gens qui abusent de la liberté d'expression et qu'on ne peut pas lutter contre eux. Et aujourd'hui, le safe space, c'est quasiment devenu une nécessité, même pour des gens comme nous, qui naturellement n'ont pas besoin de safe space en particulier, parce qu'il va falloir quand même opposer une résistance intellectuelle structurée à ces gens qui ont beaucoup d'énergie sans limite, juste pour détruire, et voilà.
Est-ce que vous êtes d'accord sur sur cette liberté d'expression?
C'est très beau ce que tu viens de dire, Philippe. Je suis 100% d'accord.
Là, on revient sur la chronique de Daz de l'époque, qui était les fondements d'Internet qu'on mettait en cause sur la sacro-sainte liberté d'expression. Mais donc, du coup, le safe space, c'est quelque chose qui va à l'encontre d'une certaine liberté d'expression, puisqu'il n'y a pas de débat possible normalement. Est-ce que vous êtes plutôt pour?
Moi, je suis pour un spectre de safe space, un spectre d'espace avec des niveaux de bisounoursis
sur une échelle de 1 à 10.
Décroissant.
Déjà, le fait que tu dises bisounoursis, ça donne un peu le fond de ta pensée.
J'ai fait exprès.
J'ai pas envie d'être mon oncle.
Ton oncle ou tes oncles? Parce que
mon oncle, le top. J'ai pas envie d'être Jean-Paul, mais. Quand même, j'ai des problèmes avec ça, moi.
D'accord.
J'ai des problèmes avec ça parce que j'accepte, en fait, quand je dis quelque chose, d'être contredit. Et je trouve que ça nourrit le débat. J'accepte évidemment pas d'être trollé à outrance parce que c'est relou, tu vois. Mais accepter quelqu'un qui réfléchit pas de la même manière que toi et qui n'utilise peut-être pas les mêmes codes que toi pour l'exprimer, je trouve que c'est cool. Donc je suis pas trop...
Mais là, on n'est plus dans un safe space, on est dans un forum.
Ouais.
Et en fait, c'est pour ça que je suis pas partisan de des trucs très codifiés, en tout cas.
D'accord.
Sur voilà.
Oui, mais ça te permettrait de dire des trucs que tu pourrais pas dire ailleurs.
Ouais, mais en fait, alors après, c'est parce que je suis un homme, peut-être, sûrement. Là, ça y est, on y arrive. Putain. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de ça justement pour dire ce que j'ai sur le cœur, tu vois. Donc, par contre, je peux comprendre qu'effectivement, toi, tu te sois senti galvanisé dans une salle remplie de femmes. t'aurais pu aller à un concert de n'importe quel groupe à la con et t'aurais eu la même.
Quel connard.
Je plaisante.
Il va m'explainer le
passe. Non, mais voilà, effectivement, moi, je n'éprouve pas actuellement le besoin d'intégrer ce genre de.
Mais tu comprends que ça existe et que ce soit utile et que des gens en aient besoin.
Il y a des fragiles.
Mélissa, pour finir. Mélissa qui se fait un paupière palme, le fameux paupière palme inventé par Fibre
Tigre. Et là, c'est genre, ouais, c'est bien que ça ait... Mais bon, hein, c'est un peu des cons, quoi.
Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est Judge Daz, la fragilité.
On rappelle que c'est Judge Daz.
C'est pour coller à son personnage.
Hein. Bah, il faut bien, sinon on va tous être là comme des bisounours à se branler ensemble.
C'est Judge Daz. La sentence est retirée au cap, ce sera 2 semaines de Daz.
J'accepte le
paradoxe
de prendre...
du save bisounours.
Je suis comme Batman. J'accepte de prendre la haine de Gotham, ça permet à la ville de prospérer.
Toujours une petite métaphore pour faire passer.
Mélissa, pour finir.
Oui, moi je suis pour, je suis à fond, oui. J'en veux, ça va s'éparpiller, et il y aura à la fois, à mon avis, il va rester les safe spaces, il va rester des lieux d'expression publique, et il en faut des lieux d'expression publique, mais...
Pour, c'est-à-dire que tu veux que ce soit connu des gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu arrives sur Internet et tu sais que toutes ces possibilités, j'ai envie de dire, existent. Tu vois, par exemple, on a l'impression que quand les gens arrivent, pour eux, la norme, c'est la timeline publique. Mm. Et que le safe space, c'est le petit secret.
T'es sûr? Parce que franchement, au début d'Internet, j'ai l'impression qu'il y avait tout ce truc de compte privé. Tu vois, Facebook, ton compte est fermé. Twitter, il y a plein de gens qui étaient en privé. Enfin, ça a été très nouveau, Twitter, à l'époque où tu mettais des trucs en public.
Ouais, mais c'est arrivé en 2007. En 2009, c'était déjà un peu la guerre.
Bien sûr. Mais je sais pas, je le vois plus comme un retour que une nouveauté.
Bon, très bien. Eh bien, on demandera aux auditeurs si, un, ils sont pour les safe space, si, deux, ils en fréquentent ou pratiquent eux-mêmes, et on passera le forum en privé, du coup. Hein.
Absolument.
On verra bien.
Il y a déjà le Discord.
Ah, c'est vrai. Dont on ne donnera absolument pas l'adresse, parce que la dernière fois que j'ai donné l'adresse, 30 personnes se sont inscrites et les gens du Discord étaient en panique totale. 30 personnes étrangères au Discord sont entrées. Ah.
Et qui criaient sans avatar dans le général.
C'est un gros safe space, ils sont 1000, hein, quand même.
Oui. Mais c'est vrai que c'est très 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 bienveillant.
Et d'ailleurs pour Slack, je ne pense pas qu'on puisse dire que notre Slack est un safe space vu que à l'intérieur de ce Slack il y a Daz.
C'est vrai.
Il y a aussi Henri Michel.
Il y a surtout Arnold qui est pire que mon oncle.
Ça parle.
Ça dénonce.
Mal. Bon voilà, il y a plus de safe space. Le Slack de qualité n'est déjà plus un safe space, il a explosé. Merci Daz de l'avoir fait en temps réel et c'est la fin de ce dernier débat.
Studio 404. L'émission de société numérique.
C'est la fin de ce numéro de novembre de Studio 404. On vous remercie de nous avoir écoutés en petit comité, en bienveillance, sans nous couper la parole. C'est important, c'était un suspense. On vous rappelle que... ce cher Sylvain nous expliquait comment nous allions vivre dans un open space, en fait, d'une certaine manière. Avec des kibbutz capitalistes qui vont traquer nos faits et gestes pour que des milliardaires handicapés sociaux comprennent comment fonctionnent les rapports humains.
Comment se faire des amis.
Comment gagner de l'argent.
Comment se faire des amis. Daz a presque célébré la fin du scoring. Voilà. Si on n'a plus de nombre de followers, si on n'a plus de nombre de retweets, si on n'a plus de nombre de likes, si on n'a plus de nombre de partages, si on n'a plus de ratio entre qui nous suit et qui nous suivons, est-ce qu'on aura une société qui fonctionne mieux, qui parle mieux? C'est pas gagné.
Venez répondre sur Twitter, hein. Je suis encore bienveillant pendant 30 jours.
Mais c'est fou parce que ce gars-là, il pense qu'il est bienveillant en plus. C'est qu'à chaque fois, tout le monde lui dit t'es pas bienveillant, il fait bah, incroyable.
Sympa.
Mélissa nous a fait voyager dans les transports en commun, d'épaule en épaule à la surface. J'espère qu'elle a évité toutes les pellicules qui pouvaient traîner sur certaines épaules.
C'est pas si près, hein. J'ai pas besoin d'être si près pour voir.
Mais le shoulder surfing ou l'art illégal, hein, on le rappelle, c'est illégal.
Mais je me demande comment tu peux porter plainte. Tu te retournes, tu vois un mec au-dessus de ton épaule, tu dis oh putain, t'es dans la merde toi.
Il faut une troisième personne qui est la personne qui prend en photo, la personne qui regarde ton épaule.
Je pense que tes nappes s'appellent le anti-shoulder surfing.
Ah mais ça y est, ça sort.
Ah bon?
Avec une caméra. Artificiel de Google reconnaît un visage que tu connais pas et du coup te met un truc qui
ça active ta cam
avec la caméra de selfie.
Ah génial. Oh là 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 là.
Donc c'est fini, le shoulder surfing ça devient très compliqué.
Les gros yeux de Daz comme ça.
What coup de gorong.
Mais t'inquiète pas, Mélissa c'est déjà un masque de super stalker donc elle ne sera pas reconnaissable. Et enfin Fibre nous a parlé des safe space et sur les bienfaits pour l'instant des safe space et la résurgence des safe space. Donc voilà le beau programme de ce mois-ci, c'était vraiment très très cool encore de vous avoir les amis. Fin de ce numéro du mois de septembre, on voulait remercier tous nos Patreons, mais la liste est détenue par Sam, et Sam est détenu par Orphée, puisque Sam dort depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas, il n'est que minuit 28. Je comprends pas pourquoi les gens dorment à cette nuit. Cette heure-ci, c'est très très bizarre. En tout cas, on fait des gros bisous. N'hésitez pas à continuer à soutenir notre Patreon parce que Fibre sera heureux. Faut dire quoi? Voilà, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes, bien sûr. Mettez-nous 5 étoiles sur Google parce que Google fait des podcasts aussi.
Sonnez la cloche du studio 404 sur YouTube.
Voilà, ah, exactement.
Oui. Et
abonnez-vous sur YouTube parce qu'on est en train de tout déplacer sur YouTube aussi.
Également, deux fois par an, on fait ce fameux camp. Vous étiez nombreux au dernier camp.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Bien. On revient du camp.
Voilà, ouais. C'était très chouette. On peut pas dire grand-chose dessus, sinon c'était un safe space. Voilà.
Exactement.
C'était un très beau safe space.
Le camp était littéralement un safe space de 45 personnes de 4 jours, mais on dira rien à Mélissa, à Gislain Adas qui était pas là.
Un genre de kibbutz.
Un genre de kibbutz.
Soyez là pour le prochain.
Ah, c'est la première fois qu'on arrive à la fin de la musique.
On a refait un débat, donc bon.
Allez.
Attendez, c'est là où il y a la post-scène Marvel qui arrive. Donc là, normalement, il y a
Sam qui se réveille.
Là, il y a Joël Rodès qui apparaît. Et qui dit, ah ouais, l'Avengers, c'était le crossover le plus ambitieux de l'histoire de... Allez, d'accord. Allez, on s'arrête là-dessus. On vous fait des gros bisous et à dans un mois. Ciao.
Gros bisous à tous.
Gros bisous.